Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette troisième saison de Fin du Game, l'émission qui va au bout des jeux. Moi c'est Hugo, je suis avec Maxime.
Bonjour.
Et je suis aussi avec Exerve.
Salut.
Ça y est, c'est la rentrée, troisième saison, 40e épisode de Fin du Game, et oui, nous y sommes. On va reprendre le rythme de deux épisodes par mois, ça c'est ce qu'on vous promet. Gros programme pour cette troisième saison, qu'est-ce qu'on a préparé ?
Plein de trucs, ça fait longtemps qu'on ça le dit, donc maintenant il faut qu'on deliver comme on dit hein, dans le milieu.
Oui c'est ça maintenant.
Parce que depuis le temps qu'on vous tease cette fameuse troisième
saison.
On
se met la pression depuis des mois et des mois.
On a même fait toute une matinée assez folle sur le Discord pour vous parler de tout ça. J'en profite du coup pour vous dire, rejoignez-nous sur le club de lecture. En gros l'idée c'est voilà, on vous dit plusieurs mois, en fait on vous donne 4 épisodes à l'avance. Donc ça vous laisse 2 mois pour faire des jeux, vous dire ah bah tiens celui-là il m'intéresse, je le connais pas, c'est peut-être le moment de le faire. Et comme ça quand l'épisode sort,
vous êtes prêts. À l'écouter,
vous pouvez nous écouter,
à le recevoir, à être spoilé, voilà, totalement.
Oui, parce que du coup, on spoil, hein, oui, si jamais vous nous
c'est
écoutez.
C'est le principe, si c'est votre première rencontre avec nous, genre un podcast sauvage apparaît, Fin du Game, hop, vous nous capturez. Et bien voilà, c'est ce qu'on fait dans cette émission, on prend un jeu et on va jusqu'au bout, on le spoil, on le critique, c'est ce qu'on essaie de faire. Et pour ça, on a besoin de votre aide, car oui, vous pouvez nous soutenir sur Patreon, la page Fin du Game, pour 1,20€ ou plus, vous pouvez... financer l'émission, nous permettre de prendre le temps de la préparer, de jouer au jeu, parce que nous aussi, parfois, il faut qu'on joue au jeu, hein, on a notre petit planning respectif qu'on doit respecter, de faire des recherches aussi également, de faire toutes nos mises en commun, parce qu'on prépare beaucoup l'émission, en fait, on se lance pas simplement comme ça, en mode discussion autour de trois bières, on est vraiment, voilà, c'est préparé, on a préparé un conducteur, on a toute une lecture qu'on a créée ensemble, et c'est ça qu'on vous donne à travers l'émission. Donc voilà, si ça vous plaît, si vous aimez l'émission, vous voulez nous permettre de continuer déjà d'une part. Bon, ça a priori, ça devrait aller.
Pas mal.
Mais aussi d'aller chercher
plus haut,
voilà,
d'aller
plus loin, d'élargir le paysage
les
encore.
Quadruple A.
Voilà, si vous voulez plus loin encore, et ben vous pouvez nous soutenir. On remercie également Sœur d'édition. C'est notre sponsor depuis aussi un petit moment maintenant.
Presque le début, ils sont arrivés assez tôt. Hein. Ils ont vraiment accroché à l'émission très vite.
Ils ont eu le nez creux.
Ouais,
Et ils se sont dit, ça va ses pairs, comme on dit dans le milieu. Alors, Sœur d'édition, on les remercie pour leur sponsor. Hein. Je le rappelle, c'est la maison d'édition spécialisée dans les ouvrages consacrés aux jeux vidéo.
Mais pas que.
Ça, c'est notre running gag, mais pour cette fois, il va pas vraiment nous servir, parce qu'on va aussi parler du livre de Nicolas Turcef, L'œuvre étrange de Taro Yoko, de Drakengard à Nier Automata. On l'a reçu il y a un bon moment maintenant, le bouquin, on l'a même reçu en plusieurs fois, je crois.
Oui, parce qu'on voulait chacun l'avoir, on voulait le lire.
Pour les vacances.
Oui, oui, c'est petit capricieux.
Hein, ouais, c'est comme ça, mais c'est normal.
Voyons,
c'est la troisième saison maintenant, voilà, on est bien installé.
On peut se permettre de demander ce genre de choses.
Deux bouquins pour trois, c'est l'opinion. Là, c'est vraiment...
Alors d'ailleurs, vous l'avez lu, messieurs, ce bouquin. Là, dans l'émission, on va vraiment parler de Nier Automata. On va vraiment se concentrer sur cet épisode-là. On viendra peut-être un petit peu sur Nier, forcément, puisque c'est la suite. Mais on parlera pas de Drakengard et donc de toute l'œuvre de Taro Yoko. Et là, par contre, Nicolas, c'est ce qu'il fait dans tout son bouquin, puisqu'il revient vraiment, pas forcément sur, sur les jeux, mais il essaie vraiment de retracer justement ce qui a marqué la création. Et c'est quoi ses thèmes de prédilection à cet auteur, qu'est-ce qu'il a essayé de faire avec son jeu vidéo tout au long de sa carrière.
Oui, ce que j'ai trouvé super intéressant avec son approche à Nicolas Turcef, c'est que c'est vraiment un bouquin comme vous achèteriez un bouquin sur, je sais pas moi, un réalisateur, tu vois, ou un truc comme ça. Là, c'est vraiment centré sur l'approche de la création de Yoko Taro, ou de Taro Yoko, vous faites comme vous voulez. Et du coup, c'est vraiment sa façon de voir les jeux, ses galères, ses conceptions, ses thèmes, qu'est-ce qui l'intéresse en fait, qu'est-ce qu'il a envie de faire, qu'est-ce qu'il a envie de transmettre avec son jeu vidéo, parce que c'est un type qui a une idée, qui a une envie avec le jeu vidéo, et c'est vraiment, le bouquin, c'est ce fil rouge-là qui est là tout du long, donc c'est très cool parce que ça permet en fait de faire le lien justement entre ces différents jeux, parce que bon, les liens historiques, ils sont assez cryptiques, hein. Ouais. Alors si tu fais la fin, je sais pas quoi, de Drakengard,
oui,
18 000 ans plus tard, non, bref.
Oui, vous êtes au mauvais endroit. Hein,
oui, voilà, c'est pas de ça dont on va parler.
Ah bon?
Non, je t'assure.
Ah mince.
Eh ouais,
j'ai pas le même conducteur. On va passer.
Mais par contre, si vous avez envie, voilà, vraiment de savoir un petit peu ce qui traverse comme ça l'œuvre de ce type-là, bah, c'est vraiment un bouquin qui revient là-dessus et c'est très bien fait. Moi, je l'ai dévoré. C'est pas un gros bouquin comparé à d'autres bouquins Ford. C'est assez surprenant. Il est un peu moins épais.
Un peu d'ASMR.
Mais voilà, vraiment, je vous le recommande. C'est cool. Il y a plein de très bonnes choses. Et puis, comme c'est un. Bon, moi, à titre personnel, c'est des jeux qui m'ont beaucoup marqué. Ça fait plaisir de savoir tout ça. Et en plus, petite cerise sur le gâteau, la préface est signée par le créateur du jeu en lui-même, qui évidemment se fait une petite blague, comme il aime bien le faire, en disant: moi, j'ai pas lu le bouquin. Peut-être que ça va parler de je sais pas quoi. Voilà, je vous spoil sa préface. Mais pour le reste, vous pouvez aller la lire. C'est très cool.
C'est vrai que Taro Yuko, c'est un personnage que, bon, maintenant, on connaît mieux et qu'on visualise mieux, qu'on identifie mieux grâce à Nier Automata.
Et grâce à son masque.
Voilà, avec son
oui,
masque.
Le bouquin, s'il existe, c'est principalement parce que Nier Automata a quand même marqué beaucoup plus de gens. Il est arrivé... Il est sorti quand le bouquin? Mars 2018?
Il est sorti,
2018,
voilà, un an après. Ouais. Un an après la sortie du jeu. Donc, est-ce que, voilà, encore une fois, Sird, ils ont eu du nez pour le succès de Nier Automata. Ils se sont dit, bon, bah voilà, on va peut-être embrayer là-dessus. De toute façon, il y avait déjà, et on en parlera, une sorte un petit peu de culte quand même autour de ce créateur, déjà dans une petite niche que Nier Automata va étendre. Mais ça, c'est ce dont on va parler juste après une petite musique sélectionnée par notre DJ Maxime, qui va aller piocher dans la symphonie.
On a Keiichi Okabe qui est là,
qui est avec nous.
Oui, vous l'avez vu en photo sur Twitter. Oh, j'étais là. Non, il n'était même pas là en plus. C'est pas grave. Ah.
Et puis voilà, on va pouvoir entamer cette saison dans la sérénité et
dans les nananas.
Et dans les nananas. Et ben c'est parti pour les nananas. C'est parti pour un nouvel épisode.
Mama.
Alors, Nier Automata, ça sort le 23 février 2017. Alors ça, c'était au Japon. C'est sorti quelques jours plus tard dans nos contrées reculées d'Europe. C'est sorti sur PS4 et PC. Et puis, c'est sorti un an plus tard sur Xbox One. Puisqu'évidemment, voilà, Sony, ils aiment bien donner un petit peu de la thune aux jeux japonais pour les garder un peu plus longtemps sur leur plateforme. Pour commencer simplement, je pense qu'on peut revenir un petit peu sur le parcours de Taro Yoko. Maxime, tu as toute sa biographie devant les yeux, un gros livre devant toi
le
qui
bouquin
retrace...
explique bien tout ça. On y apprend que Taro Yoko est donc né en 1970, qu'il est donc otaku, qui est donc un peu une sous-culture spécifiquement japonaise, mixée bien exportée, hein, évidemment, principalement masculine, j'imagine, et donc des gens qui restent beaucoup chez eux, lisent des mangas, regardent des animés, jouent à des jeux vidéo, peut-être à des jeux d'arcade aussi, quand ils sortent
des jeunes geeks, mais version japonaise,
c'est
quoi.
Ça. C'est, on va dire, c'est le stade d'après, parce que t'es quand même pas mal
c'est
renfermé.
C'est le stade d'après, ouais, c'est comme Freezer, il y a plusieurs formes.
C'est les Pokémon et tout ça, tu vois. Mais oui, l'idée, c'est ça, c'est d'être un peu renfermé sur soi-même et d'être vraiment vraiment complètement bercé, noyé dans cette culture animation japonaise, robots, figurines, cosplay, etc. Enfin, tu vois, tout ce mélange, et ça se ressent de toute façon dans son travail.
Oui, tout
et
à fait.
Il l'assume parfaitement.
Oui, il s'en revendique complètement. Donc, il est marqué par le shoot 'em up Gradius. Voilà, il est fasciné dans ses petites boulettes et il dit voilà, moi aussi un jour j'en mettrai
des boulettes.
J'aurai un petit vaisseau qui fait pipi pipi pipi.
C'est ça. Il fait donc une fac de design avant d'être graphiste chez Namco. Ensuite, il passe par Sony, visiblement licencié. J'ai pas de détails de mémoire dans le bouquin de cette expérience. Et il arrive ensuite chez Cavia, dont on va reparler un petit peu plus en détail après, en 2001, où il deviendra donc directeur artistique, puis directeur créatif de Drakengard.
Alors, on va pas forcément beaucoup s'attarder sur Drakengard. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de revenir un peu sur le contexte des studios japonais au début des années 2000. C'est la domination de Sony avec la PlayStation 2. Le marché du jeu vidéo est en pleine expansion, donc il faut faire plus de jeux parce qu'il y a de plus en plus de demandes, la qualité également est en hausse, les coûts également de production des jeux sont en train de grimper, il va y avoir l'ère de la HD, on le sait, ça va être une phase un peu difficile pour les studios, et ce que font pas mal de studios à cette époque-là, c'est qu'ils s'associent, ils fusionnent, hein. On avait Square qui rachète Enix, qui devient Square Enix, Namco et Bandai qui deviennent Namco Bandai, entre-temps ils ont changé de nom, maintenant c'est Bandai Namco, me demandez pas pourquoi, c'est comme ça, et en gros, ces studios-là, en fait, ces gros éditeurs commencent à travailler avec tout un tas d'autres équipes, il va y avoir de la sous-traitance, hein. Ils vont vraiment bosser avec des studios tiers, dont notamment Cavia, mon cher Max.
C'est ça, ouais, donc l'impératif économique, c'était vraiment de grossir, du coup, il y a tout un tissu économique de sous-traitants, Cavia est l'un d'eux, qui a été fondé par un ancien de Namco, qui avait discuté avec quelqu'un de Square Enix en se disant, lui, il avait bossé donc sur la licence Ace Combat, donc jeu d'avion, et il disait, on pourrait faire une espèce de dérivé de ça, mais à dos de dragon, du coup, il sous-traite, donc Square Enix sous-traite le jeu Drakengard à Cavia.
Cavia, ouais.
Et s'ajoute au cahier des charges, du coup, de rajouter des éléments de beat'em all, puisqu'il y a Dynasty Warriors qui marche plutôt bien en ce moment. Du coup, Square Enix dit, dragon dans les airs, mais aussi beat'em all pour surfer un peu.
Ils prennent un peu la grosse vague des... Alors, on appelle ça les musso, hein, c'est ça,
ouais, c'est
dans
musso,
le jargon. Ouais. Donc, vraiment, ces beat'em all japonais, c'est pas la même école que les beat'em all genre Devil May Cry et compagnie, c'est pas tout à fait le même
là,
genre.
Ouais, là, c'est pas un contre quelques ennemis.
En fait, c'est des foules, c'est des grandes foules d'ennemis qu'on tabasse et qu'on empêle comme ça.
Et c'est des jeux qui n'ont pas forcément un budget énorme non plus, puisque comme on le disait, là, l'impératif, c'est vraiment de faire beaucoup de jeux pour répondre à une demande un petit peu plus fragmentée, parce que voilà, il faut faire des jeux, il faut vendre pour maintenir du coup ces très grosses structures. Et donc, Taro Yoko bosse sur la licence Drakengard, et lui, il insuffle déjà un petit peu de lui, il a une certaine vision où il se dit que les héros de beat'em all qui tuent des centaines, voire des milliers de personnes, ils doivent être fous, en fait. Donc, il crée un petit peu tout un univers où il y a des personnages qui ont beaucoup de vices.
Qui sont assez tourmentés, on va dire.
Et quand même, il y a beaucoup de tabous, hein. T'en as qui sont cannibales, il y a de la pédophilie, il y a de l'inceste, donc voilà, il y a un petit peu. Drakengard, il s'inscrit.
Il y a des délires un peu bressons.
C'est pas le jeu auquel que tu montres, tu vois, tes enfants
c'est
le
pas,
soir.
C'est pas juste le Eragon japonais, tu vois, non, il y a un petit peu plus, un délire un petit peu plus particulier. Ce jeu trouve son public, hein, donc comme on l'a dit, hein, c'est pas des millions et des millions de ventes, mais au Japon, il trouve donc son public. Une suite est faite, mais Taro Yoko bossera quasiment pas dessus, il va faire du montage vidéo, je crois.
Je te coupe juste, c'est sorti sur PlayStation 2, hein, les Drakengard,
ouais, c'est
ça.
PlayStation 2, ouais.
Et c'est après Nier que sera sur 360.
C'est ça, en fait, Nier était pensé comme un projet sur la PS2, et finalement il arrivera sur 360 et PS3.
Donc Drakengard 1 est sorti en 2003, le 2 est sorti en 2005, et ensuite Kavya et Taro Yoko vont bosser sur Nier, qui lui sortira en 2010.
Il y a eu un petit délai entre les deux, parce que bah, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà. La transition vers la HD, on le sait, c'est un peu le creux de la vague pour tout un tas de studios japonais qui ont du mal en fait à prendre le train en marche. La concurrence du côté occidental c'est vraiment relevé hein, vraiment en fin de la PS2 les gros studios occidentaux prennent la confiance et commencent à aligner des gros cartons et bah du coup le jeu Nier qui probablement était pensé au départ pour sortir plutôt sur la fin de PS2 est décalé, il arrivera finalement sur la PS3 et la 360 avec une version en plus adaptée à l'occident puisqu'on n'incarne pas le même personnage.
Oui, c'est ça, il y a Réplicante et Gestalt hein,
ouais, c'est ça. Donc la version Réplicante au Japon on incarne un adolescent et donc c'est sa sœur qui est malade et en occident on incarne Nier l'adulte qui est donc c'est sa fille qui est malade, mais sinon l'histoire est 100% identique, c'est juste qu'on incarne deux personnages différents.
C'est ça, et du coup Nier quand il sort bah, c'est un échec hein, autant critique que commercial, mais avec le temps il y a un vrai ça va devenir un vrai jeu culte en fait. Déjà dans un premier temps il y a la BO qui a quand même elle cartonné par rapport au jeu qui a complètement échoué. À la sortie du jeu la BO elle est dans le top 50 des charts japonais toutes catégories confondues, donc un vrai succès qui du coup se fait bah, fait un petit peu rayonner le jeu, tu vois, par de
surtout,
façon directe.
Il y a vraiment un côté bouche à oreille, c'est-à-dire que c'est vraiment un jeu qui a vécu. Moi, je me souviens parfaitement que, tu vois, dans les années 2012-2013, quand je parlais de Nier, de temps en temps, t'avais quelqu'un dans une discussion qui levait les yeux, genre, moi aussi, j'y ai joué, tu vois, et on se réunissait, on s'en rapprochait, on commençait à faire du lobbyisme pour que les autres personnes le testent. Et en gros, il y a eu un engouement des fans tel, tu vois, avec des reprises des chansons, avec des cosplays, avec beaucoup de création de contenu autour de ça. Et en fait, avec les années qui venait, il y a même eu des articles qui sont ressortis où quand ils demandaient en fait aux joueurs japonais quels ont été les jeux qui vous ont marqué sur la PS3, Nier ressortait vraiment très haut dans les classements alors que le jeu ne s'est pas vendu et on le répète, même la critique l'a très mal reçu puisqu'il est sorti à moins de 70 sur Metacritic.
Oui, c'est
jaune, c'est pas bien.
Par rapport au système de notation des magazines US et même France, on sait qu'en dessous de 7, c'est la moyenne, et en dessous de 7, c'est pas
une bonne note, donc même avec son 66 ou 67, je sais pas combien, il était effectivement pas très bon, mais il y a eu voilà cette espèce de bulle qui a fait que gonfler, enfler, et Nier a vraiment il a aujourd'hui ce statut de jeu culte au point que avec le succès d'Automata ils vont en faire un remake.
Ouais. Et du coup il y a Yosuke Saito qui était un producteur, ou qui l'est toujours hein, chez Square Enix, qui lui avait travaillé sur Nier, il voit un petit peu avec le fil des ans que Nier a quand même vraiment marqué des gens, il y a des très grosses communautés de fans, c'est pas qu'elles sont grosses, mais il y a des communautés de fans très engagé en tout cas sur internet, et il se dit bon, il y a encore peut-être toujours quelque chose à faire avec la licence Nier. Il discute avec le PDG de Square Enix qui lui dit ok, mais ça sera pas un de gros investissements. Au début, ils explorent plutôt des pistes pour un Nier sur mobile ou une version Farmville un peu, enfin voilà, ou peut-être sur Vita, ils savent pas trop, mais en tout cas, vraiment beaucoup plus petit budget. Mais en parallèle, Square Enix et Platinum étaient en train de discuter pour faire un projet. Ils savaient pas forcément quoi. Et chez Platinum, il y a donc Takahisa Tora, qui lui est un gros fan de Nier, qui bossait sur un prototype de ce qui, dans sa tête, aurait pu être une suite du jeu. Il présente un petit peu ça à Square Enix. Et du coup, Yosuke Saito, il voit ça, il se dit « Bon, c'est l'occasion, en fait. On va vraiment fusionner les deux projets. Le prochain jeu de Nier, ce sera le jeu avec Platinum. » Du coup, petit effet d'annonce, parce que Taro Yoko plus Platinum, ça commence à faire un petit peu de bruit. Hein. C'est aussi, je reprécise, c'est l'occasion pour Square Enix, parce que Yosuke Saito, c'est pas non plus le grand maître, mais Square Enix se dit bon, c'est aussi l'occasion de faire un action RPG adulte, parce qu'eux, ils avaient la version plus grand public qui était Kingdom Hearts. Et du coup, en voyant ce projet, Taro Yoko Platinum, ils disent ok, on peut faire un action RPG.
Et puis il y a Final Fantasy aussi, mais qui est pas aussi, encore une fois,
qui est pas aussi engagé. Et puis surtout, c'est pas aussi engagé dans le côté action.
Ouais, tout à ça.
Ouais.
Du coup, effet d'annonce avec Taro Yoko et Platinum.
Il y a deux bulles en fait qui se rencontrent à l'annonce. C'est-à-dire que moi, je me souviens quand ils annoncent Nier Automata, je ne connais pas du tout Nier. Par contre, je me dis ah tiens, c'est le nouveau jeu Platinum. Voilà, c'est Bayonetta, c'est Vanquish, c'est des références qui une certaine partie du public occidental connaît et se dit tiens, c'est leur nouveau jeu, donc je vais pouvoir m'intéresser à ça. Et de l'autre côté, t'as les fans de Nier qui aussi commençaient, les petits gens comme vous qui connaissaient le jeu, parce que moi je connaissais pas du tout. comme tu le disais, étaient déjà actifs sur Internet et qui font que bah, l'annonce est renforcée par ça. C'est-à-dire que moi, quand le jeu arrive, je me dis « Ah, il y a une fanbase de ce truc-là », donc ça veut dire qu'il y a déjà quelque chose de particulier.
Et surtout, bah, comme le premier Nier, c'était un jeu pensé pour la PS2 et qu'il accusait vraiment son retard, à la fois sur la technique, mais également sur le gameplay, le jeu était considéré comme étant un peu difficile, enfin, il y avait des mécaniques qui étaient vraiment un peu à l'ancienne. De se dire, bon, on a l'espèce de label Platinum, parce que, comme tu le dis, à l'époque, ils ont le vent en poupe, il y a Bayonetta 2 qui est poussé par Nintendo, il y a Metal Gear Rising Revengeance, où ils ont sauvé Kojima des ronces, puisque du coup, il avait son premier projet qui n'a jamais sorti avec, on imagine déjà à l'époque, des soucis avec Konami. Au final, c'est eux qui en ont hérité, et ils en ont fait un super bon jeu d'action, vraiment ultra violent, etc. Et ils ont en fait toute cette ADN, tu vois, Vanquish, c'est la même idée, Bayonetta, machin. Et donc, se dire, ça va pouvoir être mélangé avec l'univers un peu barré d'un Taro Yoko, c'était effectivement les étoiles qui s'alignent, le côté un peu Dream Team. En plus de ça, Keiichi Okabe, donc, qui est le compositeur de la BO de Nier, il était dispo à ce moment-là, tu vois, il avait rien d'autre à faire, il est passé par là, il y avait de la lumière, et donc il a pu bosser avec eux. Et en gros, il y a cette espèce de mélange de gens qui ont le vent en poupe du côté de chez Platinum, Nier, qui commence vraiment à avoir une vraie grosse fanbase, et Square Enix qui se dit, bon, bah, allez, on va pousser dans cette direction, et c'est parti, quoi.
Et la Dream Team continue, parce que le terme Dream Team était employé par la presse nippone.
Dream Team.
C'est ça. Il y a le nom. Alors, il est mis dans le bouquin, c'est genre Dorimoshi.
Il y a un nom, d'accord.
Tu peux pas l'inventer tout seul. Et Nicolas Turcef rappelle aussi assez justement que au Japon, les Kara designers sont plus connus, ils jouissent d'une popularité beaucoup plus que leurs comparses occidentaux. Il y a donc notamment Akihiko Yoshida, qui est connu pour avoir fait les Kara designs de Vagrant Story, FF12, 14 et d'autres jeux, et qui est donc en fait très connu au Japon.
Pour ceux qui connaissent.
Et son patron, en fait, parce qu'il travaille dans une boîte, hein, c'est pas lui qui gère tous ses projets, son patron est un gros fan de Nier.
Encore.
Ce qui du coup a permis de l'intégrer au projet. Et puis il y a évidemment, on l'a déjà cité, donc Takai Satora, qui n'est pas hyper connu.
Oui, c'est pas une des grandes stars de Platinum, hein, c'est pas Kamiya ni Mikami,
mais il est en train de monter.
La presse japonaise le connaît les jeux sur lesquels il a bossé, il faisait partie des gens qui ont bossé sur Metal Gear Rising, et du coup ils disent, bon, c'est solide de ce côté-là, on sait que c'est assuré par un gars.
Ça fait une blague avec Metal Gear.
Et je l'ai vraiment pas fait exprès, encore une fois.
Mais voilà, je vous assure, on voit le sourire jusqu'aux oreilles de Hugo, c'est génial.
Parce qu'il faut qu'on donne vraiment, faut qu'on donne l'explication aux gens, parce qu'ils comprennent peut-être pas ce qui s'est vraiment passé ici, c'est que, en fait, on réenregistre cet épisode parce qu'on a eu des problèmes, parce que c'est la rentrée. Et du coup, il y avait la blague Metal Gear, c'était solide. Donc voilà, j'ai tiqué et je retique encore cette fois-ci.
Parce que je la refais, vraiment, parce que dans ma tête, je me suis dit, voilà,
Taka Satora, il est solide. En tout cas, on peut aussi rebondir pour rappeler un petit peu, si jamais pour vous nous écoutez, vous connaissez pas forcément l'industrie du jeu vidéo au Japon, cette idée que les gens, en fait, ils ont une notoriété, c'est un truc qui est vraiment très japonais. Alors évidemment, on a cité, comment il s'appelle, Akihiko Yoshida, vous connaissez Tetsuya Nomura. C'est-à-dire que c'est, par exemple, typiquement le caractère designer donc de Final Fantasy, de Kingdom Hearts, vous avez forcément déjà entendu son nom si vous traînez un petit peu sur Internet. Et effectivement, il y a des personnalités comme ça qui sont connues et qui ont un pouvoir de décision qui peut en fait dépasser celui d'une simple réunion, tu vois, d'actionnaires ou trucs comme ça. C'est-à-dire qu'effectivement, Yosuke Saito, un type de chez Platinum, un Nier, un Kara Designer, ils se mettent à 4 ou 5, ils vont boire des bières avec le patron de Square Enix. À la fin de la soirée, ils ont tous la cravate autour du front et tout, et ils se disent, allez, on fait un Nier, tu vois. Et ça fonctionne un peu comme ça, tu vois.
Alors ça, c'est le storytelling de Benoît, faites attention, on ne sait pas si c'est vrai.
Ce n'est pas dans le bouquin.
ce n'est pas dans le bouquin de Nicolas, mais voilà, on ne sait jamais.
En tout cas, ce que je sais, mes sources... Non, mais voilà, c'est vrai qu'on a cette image-là un peu du business à la japonaise, où ça se décide beaucoup en soirée, et c'est vraiment des personnalités qui arrivent à faire lancer l'impulsion d'un truc. Et là, Nier, en fait, c'est ça, c'est plein de gens qui étaient là. J'ai adoré le premier, j'ai envie de bosser sur le 2. Il y a cette énergie qui a été lancée de plusieurs directions différentes. Yosuke Saito se retrouve au milieu, il arrive à dire à Yoko Taro, tu peux bosser avec eux, parce qu'il n'avait pas forcément envie de bosser en fait avec les gens de Platinum. Et au final, bah voilà, toutes les étoiles se sont réunies, c'est Suikoden, les 108 étoiles sont là et c'est parti.
On a d'une part un certain alignement des astres, effectivement, avec des choses assez improbables, mais c'est quand même important de rappeler que Nier a suffisamment marqué des gens dans l'industrie pour que ça se fasse aussi, tu vois. C'est pas que de l'accident ou de la chance. Il y a quand même, voilà, Taro Yoko, il y a une aura, tu vois, autour de ses jeux et de ce qu'il a fait, qui lui a permis de faire Nier Automata, du coup, qui lui a donné une certaine crédibilité. Et avec Nier Automata, donc, comme on l'a dit, il y a un effet d'annonce, il y a une équipe solide, une équipe solide derrière. Et donc, gros succès, ouais. Comme on le disait, Nier.
Beaucoup alors, plus gros succès, voilà. Même que ce qu'ils avaient oui. Anticipé. Bah, hein.
On dit, parce que c'est pas des budgets non plus.
Non, non, ouais, c'est pas
énorme, hein, ça reste la licence Nier, comme on le disait. C'est, alors en 2019, c'est à peu près 500 000 ventes, et sur Metacritic, on disait que c'était moins 70.
Pour Nier, hein, pour le premier.
Ouais. Et là, Nier Automata, donc Metacritic, c'est 88. Et un an après sa sortie, c'est genre 2 millions de ventes. En tout cas, là, aujourd'hui, on en est à 4,5 millions, quelque chose comme ça. Donc oui, gros succès critique, commercial, sans compter le budget.
Ouais, qui a un super beau chiffre, ouais. En fait, par rapport, au, j'imagine, le budget qu'il y a eu. Ouais. Et puis même, le fait que Nier, c'est, même si on dit que c'est culte, ça reste quand même super niche, ouais, c'est ouais. Pas du tout un nom qui est mainstream, enfin c'est pas Final Fantasy non plus, mm-hmm. Donc ouais c'est quand même un gros score, 4,5 millions c'est pas mal hein, pour ouais, un ouais. Jeu Jap, non c'est bien.
Bah, c'est surtout que ça a vraiment cette fois-ci su toucher les gens, vraiment au niveau critique ça a pris direct, et pour une fois il y a le côté création de contenu autour de tout ça, entre les cosplays, les reprises au ukulélé, au djembé, ce que tu veux, des musiques, ça a forcément cartonné. Et un truc moi que j'avais noté parce que j'ai pu y assister et donc ça m'avait surpris, c'est que Square Enix a ressorti toute son armada de merchandising, parce qu'ils sont vraiment très forts pour ça, avec les statuettes, avec les t-shirts, les mugs, les CD qui sont édités en plein de collections différentes, les concerts qui sont filmés en réédition Blu-ray, il y en a une autre qui va ressortir bientôt, etc. Et l'organisation donc de ces concerts dans le monde entier, moi j'ai pu en faire un donc à Londres, et c'est fou parce que normalement ils font ça que pour les
que fou, FF,
Final Fantasy ouais. En fait, tu vois, c'est vraiment les grosses séries. En fait, les concerts de jeux vidéo comme ça, tu te dis Zelda,
ouais,
Final
voilà,
Fantasy,
c'est que les gros noms qui
les
pourront
gros attirer noms, du monde. Et là, Nier, parce ouais. Que justement, la musique vraiment de Nier, elle a cette aura qui dépasse vraiment celle du jeu, quoi, hein,
oui,
comme on disait tout à l'heure.
Et puis, comme dit, encore une fois, c'est un public différent, c'est-à-dire que c'est pas le grand public, mais c'est un public un peu plus niche, mais par contre, il va être beaucoup plus disposé à justement aller consommer du merch, aller s'engager dans une démarche d'aller voir un concert de musique de jeux vidéo et tout, donc il y a un public particulier, et je pense que Square Enix, effectivement, ils ont bien compris à qui ils avaient affaire et comment,
fait, ouais.
Comment leur drainer leur portefeuille.
Et comme on l'a déjà mentionné, ils ressortent Nier, du coup, en remaster slash petit remake, je sais pas exactement, on n'a pas trop de détails, mais plutôt remaster, hein, si j'ai bien suivi, pour justement permettre aux fans de Nier Automata de découvrir Nier, et peut-être aux fans de Nier d'y rejouer dans des conditions un petit peu plus...
Sachant qu'il y a un truc mobile hein, aussi qui est sorti.
Oui,
là,
il y a également...
Là, en ce moment, Nier
ça me fait marrer parce
c'est
que c'est... Ouais, Renier, alors du coup, c'est presque ouais. Mon nom de famille, ça me fait marrer à chaque fois. Mais, mais oui, là, c'est un truc un peu différent, c'est un autre projet, mais là, l'autre Nier, c'est Nier version 3.12 milliards de chiffres
oui,
derrière,
oui,
c'est ouais. Encore un nom imprononçable
ah, oui,
à
oui,
coucher
dehors. C'est encore un délire de...
Ça va être merveilleux pour le SEO sur Google.
Il y a eu des DLC, il y a eu Tubi dans Soul Calibur aussi, t'as ouais. Des trucs comme ça. Donc oui, comme t'as dit, ils ont inondé de plein de produits différents.
Voilà, gros succès pour Nier Automata, et puis voilà, succès aussi d'Steam, en témoigne le nombre de demandes qu'on a eu quand même par rapport à...
Ouais, on en a joué, je veux dire.
Oui, oui mais oui, c'est oui. Pas pour rien, tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'on connaît le statut qu'il a pour la typologie encore de personnes qui vont nous écouter, qui sont quand même plutôt engagées dans le jeu vidéo, c'est-à-dire que si vous en êtes là à nous écouter, c'est que normalement c'est quand même un peu votre truc, que vous y investissez du temps et de l'énergie, donc il y a moyen que vous ayez entendu parler de ce jeu, et peut-être qu'il vous ait touché. Et comme d'habitude, maintenant, on va enchaîner avec l'histoire du jeu. Alors cette fois-ci, on va pas la dérouler telle qu'on peut la vivre dans le jeu, parce que je pense que ce serait déjà, d'une part, un peu compliqué, parce qu'elle est compliquée, hein. C'est une histoire qui est très dense. Il se passe beaucoup de choses dans Nier Automata, dont j'ai des souvenirs plus ou moins flous à certains moments. Non, j'ai quand même re-regardé hein, pas mal de choses sur l'histoire de Nier Automata. Il y a des choses que j'avais complètement oubliées, les histoires des jumelles, des machins, j'étais là, je me souvenais plus
bah, avec
de
les personnages
persos.
Secondaires, les quêtes annexes, il y a vraiment beaucoup de petits sous-plots qui se passent, etc. Donc, en plus, globalement, le principe du jeu, c'est de nous faire des révélations au fur et à mesure.
Exactement.
Donc, on s'est dit que là, pour l'histoire, on allait vous la raconter de manière peut-être un peu plus chronologique. C'est quoi, en gros, l'histoire de Nier Automata? Et là, je me retourne vers Max, parce que c'est lui qui a été décidé.
Non, pas forcément. On peut commencer assez simplement pour dire qu'on est dans un univers où il y a des androïdes et des robots. Alors, les androïdes, ils ont une forme humaine très proche de la nôtre. Et puis, des robots qui ont plus une forme proche d'une
boîte de conserve.
Boîte de conserve, je pense qu'on peut les...
Ils sont très mignons. Voilà, je tiens
alors,
à le dire.
Alors, ça, gros débat à la rédaction de fin du game. Il faut...
classement.
Moi, je les trouve sympas.
Et donc, ces robots et ces androïdes, bah, ils se mettent sur la tronche joyeusement sur la Terre pour leur maître, en tout cas ceux qu'ils croient être leur maître. C'est-à-dire que les androïdes sont pour les humains. Hein, glory to mankind, hein, c'est gloire à l'humanité, les Yora. Et de l'autre côté, il y a les robots qui ont été créés par des aliens qui voulaient envahir la Terre. Je trouve que
c'est un délire, c'est un peu flou.
C'est des aliens qui veulent tuer les humains. Et en fait, ces deux entités, aliens et humains, ils envoient leur sous-fifre des fabrications et ils se mettent sur la tronche joyeusement. Et nous, on va donc incarner des androïdes Yora, 2B et 9S. Et on va finalement, à travers eux, on va découvrir un petit peu et on va justement aller de couche en couche, de révélation, pour se rendre compte de la réalité qui est qu'en fait, les humains et les aliens sont morts, n'existent plus, et en fait, c'est la guerre entre les androïdes et les robots qui prend place sur Terre continue éternellement depuis des millénaires.
Hein, vraiment des milliers d'années, et on voit donc 2B et 9S lors d'un raid sur Terre quand il n'y a pas encore toutes ces révélations, vont aussi voir quelques comportements étranges chez certaines machines qui ont été déconnectées du réseau qui normalement connecte un petit peu toutes les machines entre elles. Ça commence doucement, on en voit qui juste se baladent et sont inoffensifs. Bon voilà, on sait pas trop ce qui se passe, mais on en verra. Il y a notamment une fête foraine, enfin un parc d'attractions où il y a plein de robots qui juste font la fête et sont aussi inoffensifs. On n'est pas obligé de les tuer,
c'est important.
Et il y a un gros robot qui s'appelle Simone aussi, qui a un comportement très particulier. On va pas revenir en détail sur tout parce que ce serait beaucoup trop long. Donc on va enchaîner ensuite avec Pascal et le village des pacifistes, hein, qui lui, on avait marre de voir un petit peu tous ses amis mourir autour de lui. Et eux, du coup, ils se sont un petit peu retranchés de tout ça, mais sont vraiment serviables, aident leur prochain. On a donc aussi le royaume Sylvestre qui est dans une forêt et qui protège leur roi jusqu'à ce qu'il grandisse, parce que c'est une espèce de petit bébé. Ils attendent depuis.
Les bébés robots, c'est mignon, on est d'accord.
Non, oui, on est tous d'accord là-dessus, okay. C'est validé.
Désolé pour je voulais vérifier.
Non, mais c'était important. Donc eux, ils sont un petit peu centrés autour de la loyauté du royaume, etc., l'allégeance à leur roi.
À leur monarque,
c'est ça. Et il y a, pour terminer, on a des religieux qui associent la mort, en fait, à...
Le fait de devenir des dieux.
De devenir des dieux, voilà.
Mmh. Become as gods.
C'est ça, become as gods. Et ils tuent des gens aussi autour d'eux pour qu'ils puissent accéder au statut divin, ou sinon se jettent dans de la lave.
Ça, c'est tous des groupes de robots, en fait, hein, qui se sont déconnectés du réseau, parce que c'est vrai qu'on parle de guerre, mais c'est pas une grande guerre des tranchées avec des... Enfin, c'est une guerre un peu qui s'enlise, finalement. Hein.
Ah bah là,
on est vraiment dans un truc où c'est quelques unités qui sont envoyées pour aller se tabasser. Enfin, c'est pas une espèce de grande guerre à échelle planétaire, même si c'est ce qui se passe, mais en fait voilà, c'est vraiment, les robots, ils se font chier la plupart du temps parce qu'ils ont rien d'autre à faire que de vivre entre eux, et quand ils sont pas en train de se taper dessus, ils doivent se poser la question qu'est-ce qu'on fait maintenant, et du coup ceux qui sont déconnectés, ils trouvent des occupations en imitant les humains, en fait, c'est-à-dire qu'ils arrivent à copier les comportements que nous on avait sur Terre, et en fait ils reproduisent des choses que nous on a fait au cours de notre histoire, donc la monarchie, la religion, il y en a, ils font même une partouze, une orgie là au tout début, ce qui fait d'ailleurs naître
Adam et Ève,
donc deux incarnations, on va dire, du réseau, c'est ça, comme ça qu'ils le présentent dans
je m'avancerai pas trop là-dessus.
Scénaristiquement, c'est pas vraiment expliqué, ça c'est quelque chose, on reviendra vraiment en détail là-dessus, mais il faut pas essayer de faire tenir tout l'univers, toutes les choses d'un point de vue scénaristique, parce que c'est très métaphorique. Il y a une interprétation d'ailleurs qui est proposée par Nicolas Turceff qui est intéressante sur la naissance d'Adam et Ève dans l'univers de Nier Automata, donc on reviendra un petit peu sur les interprétations plus tard. Mais voilà, il y a Adam et Ève qui ont des formes un petit peu d'androïdes, mais qui appartiennent plutôt au camp des machines.
Robots,
Pour la faire très courte, ils finissent par se faire tuer chacun par 2B et 9S qui du coup profitent, les androïdes vont profiter un petit peu du fait d'avoir affaibli les machines pour lancer une offensive sur Terre, mais un virus possède les androïdes qui finissent un petit peu par s'entretuer.
On tue Adam qui avait enlevé 9S, hein, c'est comme ça qu'il provoque 2B, pardon, et on la tue, et après en fait la fin, en tout cas la première fin, la fin A se termine sur le combat avec Eve qui peut vraiment en mode Dragon Ball Z, et on le tue. Et en fait, le problème, c'est qu'en le tuant, c'est Nines qui le hack, je crois, et qui, en fait, du coup, chope un espèce de virus en le hackant. Et ce virus-là, il va se propager...
Parmi tous les androïdes.
En fait, ouais. Il va d'abord être juste chez Nines, et c'est pour ça que 2B doit le tuer, il me semble. Mais malgré tout, en fait, il va continuer à se propager par la suite.
Et du coup, bah, les androïdes sont décimés, hein, la base lunaire aussi est détruite, il reste plus que il y a 2B qui est infecté sur le point de mourir, Nines et A2 qui est une androïde qu'on avait croisée avant. 2B sur le point de mourir demande à A2 de prendre ses souvenirs et de protéger tout le monde. A2 accepte la demande et l'achève. Nines voit ça de loin, petit quiproquo, hein,
ouais,
déjà, Nines qui était déjà dans un état pas jojo, ouais. Après avoir appris que l'humanité en fait n'existait pas, l'humanité à qui il avait prêté allégeance, etc. Et là il voit 2B et on se doute qu'il avait quelques sentiments pour elle, la voit se faire tuer par A2, donc il devient complètement fou.
Alors ça c'est ce qu'on apprend en fait dans la run B, hein, c'est-à-dire donc on vit tous ces événements là chronologiques jusqu'au combat contre Eve à travers les yeux de 2B pour notre première run, et ensuite on recommence, mais cette fois-ci à travers les yeux de Nines, et en fait on va justement apprendre que l'humanité n'existe pas à travers cette run-là, et après justement bah, les deux histoires se rejoignent et continuent avec bah, voilà, ce nouveau raid sur la Terre, mais qui est capoté à cause du virus, et voilà, il reste plus que Nines et A2 en tant qu'androïde, et puis d'autres androïdes qui sont encore infectés par le virus.
Et on apprend pendant donc la run A2 et Nines que en fait les c'est un peu les machines qui contrôlent tout, en fait. Ce réseau, il est matérialisé par deux jumelles à cheveux rouges, à ne pas confondre avec Devola et Popola, parce que
ouais, là, elles sont juste là pour le clin d'œil à voilà. Tout court.
Et donc, en fait, les machines, ça fait très longtemps qu'elles ont déjà eu une espèce de conscience d'elles-mêmes. Elles voulaient préserver, en fait, leur existence, et leur mission, c'était donc de tuer les androïdes. Et par un petit, par une petite astuce, ils se sont dit que pour survivre, en fait, il ne fallait pas tuer les androïdes, sinon ça mettrait fin à leur fonction. Et ont décidé de maintenir les androïdes en vie le plus longtemps possible, de rendre la guerre équitable. Comme ça, ouais. Ils ont toujours un but de tant que les androïdes sont en vie, ils ont toujours la mission de tuer les androïdes jusqu'à ce qu'ils puissent suffisamment se développer et tuer les aliens, ce qu'ils ont fini par faire il y a des milliers d'années quand les événements prennent place de Nier Automata. Donc on apprend ça. Il y a alors là voilà, là c'est le truc scénaristique, une histoire de tour qui
ah
sort
oui,
du
tour. Ah oui, des tours. Voilà, ouais, là, bon. Ça y est.
Il y a voilà une arche qui devait détruire la lune, la base lunaire.
C'est
mais
le
finalement...
moment du jeu où tu te dis bon j'aimerais bien que ça oui, se voilà. termine mais maintenant cette histoire.
C'est le moment du jeu où on dit ah faut aller au point A, B, C
ouais, c'est
et
vraiment,
tu fais bon, ouais c'est chiant. Mais bref et finalement le plan c'est d'envoyer leurs données dans un monde lointain. Bon, on va pas s'attarder sur ce point, c'est pas le plus intéressant.
Ce qui est intéressant, c'est que effectivement, on découvre le double twist de l'humanité n'existe pas et les robots contrôlent en réalité la guerre et la maintiennent éternellement pour éviter le paradoxe habituel du une fois que j'ai tué mon ennemi, qu'est-ce que je fais parce que j'ai besoin de mon ennemi pour pouvoir me battre. Et on apprend donc à la toute fin, on a en fait deux fins qui se refont quand même assez vite, hein, la fin C et D qui se répondent très vite. On va avoir A2 qui va tuer Nines, ou l'inverse, Nines qui va tuer A2.
En se tuant.
En se tuant au passage. Donc là, bon, dans les deux cas, on est toujours sur le côté tragédie. Et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir accéder à la vraie fin du jeu, cette fameuse fin E, où là, en fait, c'est les pods, les espèces de petits drones qui nous accompagnent depuis le début du jeu.
Depuis le début, il y avait des turbos qui étaient là. Toi,
et nous en sachons.
Fait, et en fait, c'était eux qui vont twister.
Et donc, en gros, eux aussi ont développé leur propre autonomie, leur propre conscience, par contre, console, leur propre conscience, et donc ils
ah,
se disent...
La guerre des consoles.
Non, j'ai rien dit, je vous en prie. Et donc, en fait, ce qu'ils veulent faire, c'est de se dire, ils ont assisté à tout ça, eux, ils ont souvenir des différentes runs, des différents cycles, etc. Ils en ont marre, ils veulent
ils ont tout
briser.
Enregistré, en fait, ouais. Ils ont enregistré tous ces trucs et il y en a un qui se dit, bah, on va continuer le protocole Yora qui est de dire, bah, on détruit tout et comme ça, bah, on continue le cycle.
Voilà.
Et il y en a un qui se dit, ouais, mais en fait, à vrai, tout ce qu'on a vu, est-ce qu'on pourrait peut-être pas au final essayer de faire quelque chose d'un peu différent et du coup, il décide de ne pas supprimer ces trucs-là. Et là, c'est...
L'apothéose. La fameuse fin E où en fait, vraiment, va y avoir donc... C'est vraiment un truc, je le sais parce que toi tu l'as pas fait en ligne, etc.
Non,
Hugo,
peur,
et bref,
peur,
on
peur,
en
peur,
reparlera. Peur. Donc en gros, bah, en fait, on va se battre contre les crédits du jeu.
Tout
on va incarner un petit robot à nouveau, une petite séquence de shoot'em up où on va devoir détruire les noms des différents producteurs, etc., de leur tirer dessus à
les
une
crédits,
sorte,
voilà,
les crédits,
déroule,
une espèce de Space Invader moderne. Au bout d'un moment, ça devient trop difficile. Et donc, en fait, à ce moment-là, le jeu nous rappelle qu'on est connecté avec d'autres joueurs depuis le début si on joue en ligne. Et en fait, ils viennent nous aider, ils viennent nous apporter de la puissance, ils viennent nous apporter des des messages d'encouragement, et notre robot, notre vaisseau devient ultra puissant, et il arrive à vaincre ça, et peu importe si on meurt, on va revenir à chaque fois, et on va pouvoir en fait arriver jusqu'au bout.
On meurt pas quand on se prend un coup, en fait c'est un des vaisseaux autour de nous
qui est détruit à la place.
En bas à droite, c'est machin a été détruit, donc ouais.
T'as un petit message de genre c'est pas grave, vas-y, continue, keep on going on, etc.
Après, à chaque fois que tu meurs, parce que tu peux pas avoir l'aide des joueurs dès le début, faut que t'échoues trois fois, je crois.
Tu meurs beaucoup.
Et à chaque fois, au moins trois fois, je crois, à chaque fois que tu échoues, t'as un message déjà du jeu, du genre alors t'abandonnes, est-ce que tu penses que les jeux c'est que des petites choses pas importantes,
oui, en fait, ils reposent les mêmes questions d'ailleurs qui sont en toute ouverture du jeu, où on nous demande justement est-ce que tu penses que la vie machin vaut le coup d'être vécu, est-ce que les jeux sont des trucs importants ou pas, et en fait ils te reposent exactement les mêmes questions à la fin, et ensuite au fur et à mesure que tu réponds aux questions, bah voilà, au bout d'un certain moment tu as les autres
et t'as des messages des joueurs qui apparaissent aussi progressivement, ce que tu dois dire non je veux me rebattre contre les crédits,
ça a du sens, voilà,
c'est ça, et t'as des messages de joueurs qui commencent à apparaître aussi, tu décèles quand même déjà qu'il y a un petit format, c'est des phrases vraiment en trois temps, donc tu doutes qu'il y a un petit format qui est préélaboré, mais c'est des messages d'encouragement, tu vois, et t'as les pays d'où ils viennent et tout, et donc il y a toute cette connexion qui vient, et ensemble, avec l'aide des joueurs, tu peux finalement tuer les crédits face auxquels t'es mort normalement au moins trois fois, et tu peux rejoindre du coup les rangs, entre guillemets, tu peux toi à ton tour aider d'autres joueurs en supprimant ta sauvegarde.
À condition, voilà, de sacrifier ta sauvegarde, donc faut que tu fasses ce choix, voilà, est-ce que toi aussi tu vas participer, et si tu choisis de supprimer ta sauvegarde, t'as tous les écrans, vous savez, dans les menus, qui disparaissent un à un, toutes les petits trucs de l'interface, des menus qui disparaissent un à un, et voilà, tout est supprimé, voilà, sur ton ordinateur, et t'as tout perdu, voilà, mais est-ce que tu n'as pas gagné quelque chose
si,
au final?
Si, exactement, oh, c'est
telle
bon.
Est la question.
Et tu peux recommencer Nier Automata, et là tu peux sauver Toubib. Non, c'est faux.
Non,
la seule
grosse différence, c'est le souvenir que tu gardes de cette partie, c'est que tu as l'écran, le splash screen, donc l'écran start, qui change au fur et à mesure des runs, qui va avoir une forme spéciale quand tu as enfin fait cette fin E, et ça sera toujours celui-là que tu auras. Donc tu auras en fait cette espèce de souvenir d'avoir débloqué cette fin, et un jour d'avoir fait le choix d'aider quelqu'un, mais de te sacrifier, et donc d'avoir fait ce côté vraiment très altruiste où tu sacrifies ta propre sauvegarde, pas vie, ta sauvegarde, pour aider quelqu'un qui à son tour va devoir tuer les crédits et se rebeller contre ces fichus gens de Square Enix et de Platinum qui ont décidé de faire un jeu vidéo.
Voilà,
séquence magnifique, séquence émotion.
Ah bah écoute, voilà, vraiment, moi j'ai passé les 10 minutes à chialer devant mon écran. Je réentends la musique, je sais que si je réécoute la musique quand le podcast sortira, il y a des chances que j'ai une petite larme à l'œil, parce que c'était un moment de jeu vidéo comme on en vit rarement, je pense.
On pourra peut-être même en reparler un petit peu là, parce qu'on va parler dans un second temps de tout ce qui est thématique et tout, sera l'occasion un petit peu
d'expliquer pourquoi
de
c'est voilà. aussi important pourquoi, finalement. Aussi là, c'était l'idée de vous raconter l'histoire de Nier, mais évidemment, il y a des tonnes de subplots, de petits personnages secondaires. Globalement, l'histoire de Nier, ça se passe comme ça, et ça se termine par cette espèce d'apothéose où on décide de supprimer sa sauvegarde et de repartir de zéro, ou de ne plus jamais toucher au jeu et d'attendre fin du game pour enfin entendre quelqu'un nous en parler.
On peut revenir sur cette histoire un petit peu de fin qui est un petit peu déstabilisante, hein, ce côté il y a la fin A, il y a la fin B, C, D, E, ça c'est les vraies frames principales, sachant qu'il y en a encore 21 autres, hein, puisqu'il y en a une pour chacune des lettres de l'alphabet, et toutes les autres sont plus des fins un peu blagues, quand tu vas mourir bêtement en mangeant un poisson empoisonné, ou je sais pas, t'arrives, tu vas pas à un endroit parce qu'on t'a demandé va là, et en fait t'y vas pas, et du coup je sais pas, il y a un truc qui explose et ça y est, c'est fini,
t'as la fameuse fin où tu enlèves la puce nécessaire, t'as une puce d'exploitation à l'intérieur de ton personnage, et si tu l'enlèves, il te dit mais si tu l'enlèves tu meurs, tu dis non mais vas-y enlève-la, et tu meurs. On te l'avait dit, donc bon voilà, et t'as une fin spéciale juste pour ça. Bref, il y a toutes ces fins un petit peu blagues qui pour le coup font mettre les crédits souvent défiler avec en accéléré ou avec une musique un peu rigolote, et sinon il y a ce concept comme tu dis de fin, run A, run B, alors vous le voyez pas mais je fais des petites air quotes, parce que finalement La run A et B se font en parallèle, effectivement, mais ensuite, c'est la continuité du jeu.
C'est ça.
Donc, il n'y a pas vraiment de conclusion. C'est simplement que tu arrives à une espèce de fin d'acte, on va dire, et tu passes à un autre. Et d'ailleurs, je pense que le jeu, eux-mêmes, sont conscients que cette idée de fin est un peu confuse, parce que quand tu termines la fin A, tu as un message de Square Enix qui te dit « Cher testeur, s'il vous plaît, avant de mettre votre note... » continuer de jouer, parce qu'en fait c'est pas vraiment fini, c'était une blague, c'est la fin, mais c'est pas la fin.
Mais c'est vrai que c'est pas très clair, parce que tu vois, le nombre de messages que tu peux voir qui demandent, que ce soit sur Discord ou des forums, genre j'ai fait là, bon la baie c'est pas terrible, est-ce que je dois continuer ou pas, et t'as les autres qui font bah oui, parce que oui, en fait ça finit pas là-dessus, parce que tu ne sais pas en fait, quand t'es en train de faire ta run en avec fait... Nanes, ça va peut-être juste finir avec sa perspective et c'est fini quoi.
Exactement, c'est intéressant de dire qu'il y a des gens qui appellent ça genre la run B, qui disent bah je suis au New Game Plus, et en fait non, t'es pas du tout au New Game Plus, t'es
en fait,
toujours
c'est
dans
le jeu normal, ouais.
Sauf que t'es sur une autre perspective de la même chose que tu as faite. Donc déjà c'est pas une fin, c'est juste un deuxième angle sur la même chose qui va se terminer au même moment, mais qui n'est pas la fin du jeu, parce qu'encore une fois c'est aussi le même moment,
ouais,
et après il y a
continuité.
Encore eux. Donc il y a vraiment quelque chose de très déstabilisant, je pense, si tu n'es pas au courant qu'il faut aller jusqu'à la E, que la vraie fin du jeu c'est la E, bah, je pense que tu peux être tu peux vraiment mal comprendre ce qui se passe quoi.
Oui, et c'est pas genre juste déstabilisant, genre au début bon c'est bizarre, après tu t'y fais, même si c'est un peu le cas, mais moi à titre personnel je rejette vraiment cette appellation de fin ABCDE. Non, je trouve que c'est pas ça, c'est vraiment chapitre 1,
c'est plus des chapitres,
voilà,
ouais, c'est plus vraiment des chapitres
partie
comme ça,
A, partie B, et ensuite ouais. Chapitre 2, t'as C, D et éventuellement la fin avec E, mais de dire qu'il y a une fin C, une fin B, non c'est
non, parce
pas
que
ça,
de toute façon
non.
En plus il y a même des moments où la fin, je crois que c'est entre C et D, où tu continues de jouer,
oui,
en fait, c'est à dire que les crédits défilent, mais toi tu es dans la station lunaire en train de te balader,
ouais, tout à fait,
donc
ouais.
Le jeu lui-même est conscient de ça, pour moi je l'interprète comme un héritage en fait, hein, de la culture de Yoko Taro, du premier Nier, qui proposait pour le coup de manière peut-être plus justifiée cette idée de fin différente, mais encore une fois, pour aller au bout du jeu t'es quand même pas obligé, mais si tu veux comprendre le jeu dans sa globalité, il faut quand même aller à la vraie fin entre guillemets avant,
oui.
C'est pour moi c'est vraiment un héritage de l'arcade, tu vois, de ces vieux jeux qui font plaisir à Yoko Taro, où tu pouvais tu vois finir je sais pas tel shoot 'em up en faisant une fin, mais
oui,
si tu débloquais le boss ou que tu avais le bon score
battais,
et le bon
voilà,
machin avec des conditions,
un truc supplémentaire,
tout à fait, et donc ça, cet héritage là ça fait partie un peu des on va dire des tics
de sa grammaire
à lui, mais ça peut effectivement être confus dans le sens où c'est pas une fin, c'est jamais vraiment une vraie fin, parce que le jeu en plus enchaîne direct, il te demande même pas ton avis du genre est-ce que vous voulez recontinuer ou quoi. Ça enchaîne et le jeu reprend comme si de rien n'était.
Parce que sans trop spoiler Nier, comme tu le disais, le fait de refaire le jeu, c'était le propos du jeu en fait, d'avoir de nouveaux éléments qui te permettent de décrypter ou de comprendre différemment des choses que tu avais déjà faites, et du coup les refaire mais avec un vrai regard nouveau, une vraie nouvelle connaissance. Il y a un petit peu de ça dans la run B où quand on incarne Nines, il obtient des informations qui font qu'il y a une petite relecture de certains éléments,
notamment par exemple Simon, le robot dont tu parlais, là on peut connecter sa backstory, pourquoi elle agit comme ça, parce que justement en fait Nines va hacker, c'est ça son pouvoir, hein. Il y a un gameplay vraiment quand même qui change, hein, malgré tout,
on
passe d'un beat'em all à vraiment une espèce de twin stick shooter très très simplifié avec Nines, et en fait pendant qu'on hack on va pouvoir débloquer des dialogues et tout, et on va comprendre à qui on affronte et qui on détruit en fait au fur et à mesure du jeu,
mais c'est assez léger disons
par rapport
parce
à
que Simon c'est pas un perso important dans l'histoire du jeu.
Boss, quoi.
Oui, elle pourrait ne pas exister, l'histoire elle ne change pas. Hein. Concrètement, c'est pas genre Adam ou Eve, enfin, c'est pas des persos aussi importants. Et donc, c'est assez léger dans la run B, mais après, les CDE, c'est pas du tout ça. C'est
non,
pas du tout une relecture.
C'est la continuité.
Ça, voilà.
Oui, c'est la suite,
continue,
c'est un autre chapitre.
Et c'est juste un moment où tu reprends vraiment avant le combat entre A2 et Inanes, tu reviens juste au début du combat et tu choisis un autre perso. Il y a pas de relecture de New Game Plus ou quoi, tu vois. Donc, effectivement, il a repris un peu cette structure qui avait beaucoup de sens dans Nier et qui était vraiment le principe, hein, l'intention même, mais dans Nier Automata ça marche pas vraiment comme ça quoi, c'est pas, comme tu disais, enfin je trouve que ça marche pas vraiment comme ça.
Et du coup ça permet en fait de se dire que Nier, l'histoire elle est très dense, on l'a dit, et cette histoire de fin ça peut être un peu confus, ce qui fait que le jeu n'est pas forcément évident à suivre, sachant qu'en plus de ça le jeu en lui-même dans sa structure et dans toutes ses mécaniques, c'est déjà un jeu qui va changer de caméra, qui va changer de style, qui va faire une proposition assez particulière, qui fait que c'est pas si évident que ça
de rentrer dedans
de l'accrocher.
Déjà ouais, c'est pas facile à accrocher parce que, comme tu le dis, cette espèce de mélange des genres, il y a du shmup, il y a du beat'em all à la Platinum, il y a du twin stick shooter avec les séquences avec Nanes, et puis il y a plein de moments où voilà, le jeu il va changer de caméra, il va changer de perspective, et on va pas forcément trop comprendre à ce qui se passe. Il y a un moment qui est assez intéressant, notamment dans le deuxième combat avec Simon, où tu sais, la caméra justement, elle s'enlève du perso et elle regarde, elle est au lieu d'être au-dessus et de fixer le boss, elle te fixe toi et les deux personnages, donc tu vois plus de la même façon, et il y a plein de choses comme ça qui sont assez déstabilisantes dans dans le jeu. Et parfois, il y en a, elles vont avoir du sens dans la mise en scène et compagnie, ça va plutôt être le cas. Mais il y a d'autres choses qui sont vraiment en termes de game design, si on réfléchit, si on se mettait en mode d'analyser le jeu, est-ce qu'il est fun, est-ce qu'il marche bien ? Il y a des trucs parfois qui sont un peu bancals. Nous, on a déjà noté cette espèce, l'aspect que c'est à la fois un beat 'em up à la Platinum, mais c'est un beat 'em up à la Platinum qui dure 30 heures et qui est en plus mélangé avec des mécaniques de RPG. Et bon, c'est vrai que la rencontre se fait pas forcément hyper bien.
Bah oui, parce qu'on se retrouve avec deux types de gameplay qui ont des ambitions un peu opposées, dans le sens où le RPG, enfin dire l'action à la beat'em all, à la Platinum, pardon, c'est un truc assez instantané, c'est-à-dire que très rapidement, tu vas pouvoir faire des petites expériences, comme on l'a déjà raconté avec Devil May Cry, pour trouver ton style, t'exprimer à travers ton système
ouais,
de combat.
Combos, apprendre des combos, c'est ça. Trouver la profondeur en fait des coups, les timings, les placements, enfin vraiment toute cette science hein, du
vraiment
du
de l'action, hein, vraiment. Pur et dur, alors que le RPG, on est plutôt dans une logique de progression. Hein, le principe du RPG, c'est de remplir des jauges, d'augmenter des chiffres et donc d'être plus fort. Et pas forcément, du coup, les deux, en fait, se rencontrent assez difficilement, où au bout d'un moment, bah, t'es là, pourquoi je gagne des niveaux, en fait ? Parce que tu continues d'utiliser les mêmes attaques, tu vas utiliser les mêmes armes, tu vas éventuellement les moduler avec un peu de craft, ceci ou ça, mais finalement, le plaisir instantané d'un combat de Platinum, ça fonctionne, mais peut-être pas sur 30 heures. Hein. Je pense que c'est pas un secret que les jeux à la Bayonetta, à la Metal Gear, etc.
6 heures,
ouais, parce qu'il n'y a pas besoin que ça dure plus longtemps.
Non, parce que t'as ta dose surtout à la fin, parce que voilà, en général, c'est un cocktail d'action, c'est très effréné, très rythmé, et en plus, c'est des jeux qui te demandent d'être pleinement investi au niveau cognitif et au niveau de tes doigts, hein, ça fait mal aux doigts, c'est des jeux où il faut être bien réveillé, alors qu'effectivement, sur 30 heures, c'est beaucoup moins digeste, en fait, tout simplement, parce que c'est pas des jeux qui ont un rythme qui est fait pour
ça. Parce qu'il y a justement pas cette progression, c'est-à-dire qu'en fait, on a d'un côté, si vous voulez, une sorte de courbe de progression du RPG qui, elle est continue, elle est constante, voilà. Tu ne fais que progresser.
Et qui peut s'étaler, en fait, ouais. Qui peut vraiment être une courbe très, 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 très lisse sur des dizaines et des dizaines d'heures, alors que celle du BTA, voilà.
C'est ça, t'arrives assez haut, assez vite au plateau, tu vois, vraiment au niveau plateau où ça y est, tu connais le gameplay, tu le maîtrises, et donc là, au bout de, je sais pas, peut-être 4-5 heures, ça y est, t'as vraiment pigé toutes les petites subtilités et les petits timings cool, et donc les 25 prochaines heures, tu vas faire que appliquer
répéter,
ça.
Répéter, voilà,
il n'y aura plus d'évolution. Et ça, du coup, c'est dommage parce que c'est vrai que bah, forcément, ça, on se retrouve avec deux styles de jeu qui vont pas forcément de pair, en fait, qui vont pas forcément ensemble, et ça peut être une des raisons qui font que vous lâchez le jeu au bout d'un moment parce que vous avez l'impression de toujours faire la même chose. Vous voyez, c'est très compliqué parce que la répétition, c'est vraiment l'essence du jeu vidéo, puisqu'on parle de boucle de gameplay, donc je veux dire, même par essence, on fait que répéter la même chose, mais la manière dont on les répète et les manières surtout dont les boucles
dont sont, on les renouvelle,
voilà, elles se renouvellent ou non, ouais. Ça peut justement dire oui, un jeu est répétitif ou non, un jeu n'est pas répétitif.
Et même si Nier Automata propose vraiment des moments assez différents, tu vois, le tout début du jeu, c'est un peu l'apothéose en shmup avec vraiment, t'as trois caméras différentes, enfin, t'as du scrolling vertical et puis horizontal, et puis à un moment, c'est vraiment que vu de haut, et puis t'as une espèce de la caméra est derrière toi, à un moment, t'évites un peu des obstacles, et puis ensuite, ça passe. Combat à troisième personne, enfin vraiment il y a tout ce côté qui s'enchaîne super bien. D'autres moments, on enchaîne entre A2, 9S, enfin tu passes d'un perso
dans la
à l'autre
deuxième,
rapidement,
oui.
t'as des mises en scène un petit peu comme ça, très dynamiques, où on parlait de la mécanique du hacking de 9S qui est bienvenue et qui permet aussi plein de petites mises en scène, mais le hacking même en lui-même il devient assez répétitif, comme on l'a dit, c'est très basique,
il n'y a pas une grande subtilité,
à petite dose ça marche très bien, mais comme on l'a dit, sur 30 heures, bah non, en fait, c'est
même si tu le fais sur
PS5,
quand tu sais qu'à côté il y a des jeux comme, je sais pas, Enter the Gungeon, des trucs comme ça qui existent et qui font finalement la même chose mais en beaucoup plus développé, c'est vrai que là à côté, Nier Automata, le hacking avec 9S, voilà, c'est très
simpliste.
On retombe
souvent sur les mêmes niveaux parce que du coup, comme le principe du hacking quand on joue 9S, c'est très fort parce qu'on peut faire soit énormément de dégâts, soit on peut prendre le contrôle d'un ennemi et l'utiliser, le retourner contre ses potes.
Pas toujours, je crois. Toujours ou
pas tous,
mais
quasiment.
Il y a une scène vraiment dans l'usine où il y a les religieux, où ça tu peux le faire et ça devient vraiment un gimmick, t'incarnes différents persos, t'obtiens leur contrôle et t'enchaînes, mais je suis pas sûr que tu
et tu peux débloquer un pouvoir où en fait ils se retournent, toi tu continues de contrôler 9S mais ils t'aident en fait, et sinon oui tu peux prendre leur contrôle à eux, etc. Mais en fait au bout d'un moment les mêmes types d'ennemis ont toujours le même niveau, c'est à dire que tu vas je sais pas, tu vas avoir robot de type C, si tu recroises un robot de type C 4 heures plus tard, c'est le même niveau de petit shoot'em up, et c'est vrai que bon, ça permet, ça renforce encore une fois ce côté répétition
design, tu vois, c'est vrai que tous les robots, là, la boîte de conserve. Alors, il y a plusieurs types d'ennemis, mais je sais pas, tu prends, encore une fois, je prends Bayonetta, quand tu vois le bestiaire d'un Bayonetta et celui d'un Nier Automata, il y en a un où il y a plein de démons dans tous les sens, et là, il y a quelques niveaux de robots. Enfin, il n'y a pas grand-chose non plus, il n'y a pas énormément de matière à ce niveau-là, et qui renforce, encore une fois, le fait que tu as l'impression d'enchaîner un peu la même chose.
Au début du jeu, les robots que tu vas croiser, qui vont pouvoir être dans leur tête de petits drones qui volent, ouais, ou qui sont, ouais, au sol, ceux-là, tu vas les croiser pendant peut-être 10-15 heures, jusqu'à ce que tu arrives enfin au royaume sylvestre, où là, c'est enfin un peu différent, parce que maintenant, ils ont des épées et des loups sur lesquels ils peuvent te charger. Mais avant ça, tu vas faire que croiser les mêmes ennemis, c'est-à-dire que à la fête foraine, etc., enfin, à tous ces niveaux-là, vraiment, tu vas souvent retomber sur les mêmes bestioles, et en plus de ça, ben, vous voyez, c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire que vraiment le côté répétition, il est à plusieurs couches de gameplay différentes, et passé un certain nombre d'heures, le jeu peut vraiment tomber dans une espèce de lassitude qui est un peu dommage.
Voilà, et en plus de ça, t'as un monde ouvert hein, quand même. Alors bon, on parle beaucoup de monde ouvert parce qu'il est sorti début 2017, hein, c'était encore vraiment la période, je sais plus si on l'a dit là ou un ancien enregistrement, mais il y a eu Zelda et Horizon Zero Dawn qui sortent vraiment à ce moment-là. 2015, c'est Witcher, il y a eu Metal Gear Solid 5, enfin bref, voilà, c'est toujours la grosse mode des open world. J'imagine que c'est Square Enix qui a demandé quand même à ce qu'il y ait ça. J'ai pas l'impression qu'il y ait une intention vraiment derrière l'open world, qui n'en est pas vraiment un finalement.
Oui, c'est vraiment un open world à la japonaise, entre guillemets, c'est-à-dire c'est de l'open world de JRPG en fait, c'est-à-dire que c'est pas du tout un monde qui est structuré tel que The Witcher 3, tel que bon, déjà MGS5 c'était pas ouf en termes d'open world, ça, je comprends pas,
oui,
le dire,
oui.
Mais par exemple, je sais pas, Skyrim, Red Dead, bah, c'est pas du tout foutu comme ça, ou encore pire, Zelda Breath of the Wild, qui est peut-être un des points culminants de cette forme d'open world et qui arrive à bien l'utiliser. Là, on est en fait sur différentes zones qui sont reliées les unes aux autres. Il y a un gros hub central au milieu qui est la voile, la ville, pardon, pas la voile. Et puis, tu vas vers un petit couloir, hop, t'es côté
fête foraine.
T'as un autre petit couloir qui t'emmène côté forêt. Ensuite, tu reviens, tu vas à un autre petit couloir.
Usine.
Voilà. Donc,
il y a le désert et voilà, t'as les quatre
c'est
gros
pas du
niveaux.
Tout, c'est des zones. Et déjà, par rapport, si on compare, je sais pas, ça à la taille d'un The Witcher 3, alors encore une fois, on n'est pas du tout sur les mêmes budgets, hein, qu'on se le dise bien, mais par rapport aux exigences qu'on peut avoir et aux attentes qu'on peut avoir vis-à-vis d'un open world, on n'est pas du tout dans ces canons-là, quoi.
Et surtout, il y a une règle de l'open world qu'on oublie souvent, mais qui est, je pense, essentiel et qu'il faudra qu'on commence à rappeler au bout d'un moment, c'est qu'en fait l'idée du monde ouvert au départ, c'est que c'est pas une histoire de monde contigu où il n'y a pas de chargement ni quoi que ce soit, ça c'est juste des problématiques techniques, c'est que en termes de liberté d'exploration,
exactement,
un truc qui va différencier Skyrim d'un autre jeu vidéo, c'est que Skyrim, si vous savez où est la fin du jeu, vous pouvez y aller direct. Dans Zelda Breath of the Wild, c'est pareil, on vous le dit où il est le méchant au début du jeu, donc après si vous voulez y aller, c'est votre problème, vous pouvez faire tout le reste ou pas. Là dans Nier, en fait, si c'est pas le moment d'aller dans la forêt,
tu
peux pas y aller, c'est fermé. Donc on peut pas vraiment parler d'open world, c'est juste que la structure des différents lieux, des espaces, sont pensés comme des lieux ouverts où il va y avoir des quêtes annexes,
exactement,
etc. Mais on est dans une lecture vraiment très basique, j'oserais dire même archaïque, de ce qu'on imagine être aujourd'hui un open world, surtout que bah voilà, maintenant on a eu Zelda, on a eu du Red Dead, des choses comme ça, qui nous ont montré ce qu'on peut faire avec ces espaces vraiment libres.
Et je nuance un tout petit peu cette vision de l'open world. Après, voilà, peut-être que tu considères que certains n'en sont pas, mais très souvent, tu as quand même la quête principale. Il y a des checkpoints, tu vois, réalisés avant, scénaristiquement parlant, pour pouvoir atteindre la fin, tu vois. Il n'y a pas forcément un boss à battre à la fin. Tu as en général une histoire quand même de A à Z. Mais effectivement, Nier Automata, il rentre pas du tout dedans. Et du coup, pour en revenir à ce qu'on disait sur le côté un peu répétitif, chiant, c'est que il y a beaucoup de backtracking, beaucoup tu ne débloques pas la téléportation dès le début, où tu peux vraiment, et déjà la téléportation d'un terminal à l'autre, il faut te rendre à un terminal pour pouvoir te rendre à un autre, c'est un petit peu chiant. Parfois ils en bloquent, tu sais pas vraiment trop,
ouais,
pourquoi,
c'est assez arbitraire,
des raisons scénaristiques,
ouais.
Ils se disent, à ce moment-là tu peux plus aller là, voilà.
Et moi au début, je me souviens, j'avais commencé à faire des quêtes annexes qui te demandent de te rendre dans aux quatre coins du monde, sauf que bah, il n'y avait pas de téléportation en ce moment-là, donc j'ai vraiment marché dans ce monde. Tu te retapes un peu toujours les mêmes chemins. Hein,
Bah oui, parce que encore une fois, comme on est sur des couloirs qui lient différentes zones, il y a des endroits, et c'est pour moi, c'est ça qui le point discriminant d'un open world et de quelque chose qui ne l'est pas, c'est que dans un open world, pour aller à un endroit, je peux passer par plein de chemins différents. Si j'ai une route à suivre, c'est que je suis pas dans un open world, tu vois. Si j'ai pas le choix, si je suis obligé de passer un moment par un tunnel ou par un couloir, c'est qu'on n'est pas dans un open world.
C'est pour ça que je pense que tu parlais de JRPG, tu vois.
C'est
on pense tous, je pense, enfin moi je pense à la, tu sais, aux cartes du monde des JRPG à la Final Fantasy. Ouais. T'as une immense zone dans laquelle tu peux te balader, mais il y a une entrée A, une voilà. sortie B, et c'est tout.
Il y a une chaîne de montagnes qui ferme à un moment. Il y a un petit village au milieu. Si tu dois passer, tu rentres dedans et les gardes te disent non, tu peux pas rentrer maintenant. Tu n'as pas fini la quête d'avant. Et tu fais ok, bah c'est pas ouvert.
Voilà.
Et c'est vraiment ça.
Il y a pas vraiment cette liberté d'exploration. Et en plus de ça, la structure même du jeu, tu as commencé à le mentionner, avec ce système de quêtes annexes qui sont quand même intéressantes. On y reviendra pour l'histoire, mais qui sont nécessaires d'un point de vue mécanique pour gagner de l'XP, trouver des objets de craft et des conneries comme ça. En fait, elles sont pensées, elles aussi, de manière très basique, simpliste, à base de « va me chercher tel truc, va me tuer 3 loups et reviens, va me tuer 4 loups et puis tu reviens, amène le machin, point, voilà, accompagne un machin. »
Récupère 3 objets aux 4 coins du désert, j'ai dit 3 aux 4 coins, mais...
Voilà, ouais, il faut chercher après, mais du coup, des billes qui brillent en plein milieu d'un désert jaune, bon, voilà, c'est pas très marrant. Et du coup, bah, tu ne fais que revisiter en permanence les mêmes zones. Alors, il y a quelques évolutions en fonction, encore une fois, de la quête principale. Il y a des moments où la ville va être complètement écrasée avec les robots, avec la fin, la tour,
oui,
etc.
Oui, parce qu'il y a un moment où il y a une grosse attaque de robots, il y a un robot type, c'est Goliath ou qui va créer une maxi-explosion et du coup bah, la ville va s'effondrer sur elle-même avec ce gros cratère au milieu. Mais oui, c'est pas très varié et voilà, c'est vraiment, je me tape tout l'aller, je fais les bip-boop et je me bats encore contre quasiment toujours les mêmes ennemis et je reviens pour faire le truc. Et même si, encore une fois, je pense qu'on le dira après, toutes les petites histoires qui forment cette espèce de constellation de toutes ces quêtes, bah, elles sont intéressantes, elles sont pas, voilà, il y a toujours un petit bonbon quand même narratif derrière qui est toujours bon à prendre. Il y a toujours une petite anecdote qui est sympa, mais malgré tout, le faire, c'est quand même assez rébarbatif. Et moi, je me souviens au début, tu vois, je me suis dit, ah bah tiens, je vais les faire. Et en fait, j'ai jamais été déçu de faire une quête annexe parce qu'il y avait toujours une petite récompense, même narrative, qui était sympa. Mais par contre, il fallait toujours se mettre un gros coup de pied au cul pour se dire, ah, vas-y, je vais m'en faire une parce que.
Ouais, c'est ça, quand tu te dis, bon, ça fait 4 fois que je retourne dans le supermarché avant la zone sylvestre pour tuer un robot et pourquoi je les ai pas tous tués d'un coup, j'aurais pu récupérer toute l'XP d'un coup. C'est vrai que ça devient vite, effectivement, très rébarbatif de le faire, mais justement, si tu arrives à passer outre, et je pense que c'est pour ça en fait que quand on a commencé à réfléchir au conducteur de cette émission, on s'est dit c'est quand même important d'accepter l'idée qu'il y a un tas de gens, tu vois, qui n'ont pas accroché au jeu, et on s'est dit si nous on arrive déjà à détecter qu'il y a des moments où ça nous gonflait mais qu'on aime quand même le jeu, on s'est dit bah c'est bien d'expliquer qu'effectivement et de se pencher sur qu'est-ce qui fonctionne pas en fait dans le jeu. Et ça, c'est pour ça, je sais qu'il va y avoir des gens qui disent quoi, mais vous dites que ni vous inquiétez pas, on va dire des choses positives
après,
sur le jeu
pas,
un peu plus tard,
la dose d'amour arrive juste après,
mais
vous inquiétez pas,
ça nous semble important de revenir sur le fait que le jeu, de par sa structure, de par son envie d'essayer d'imiter un open world, de mélanger des genres qui ne fonctionnent pas forcément ensemble et de nous changer de perspective en permanence, ne fait pas beaucoup d'efforts pour qu'on l'apprécie. Et ça, c'est vraiment une approche qui est très particulière parce que du coup, on peut l'opposer à ce qu'on va appeler justement les jeux AAA, les jeux mainstream, qui vont au contraire essayer de lisser les mécaniques, de favoriser, voyez, votre entrée dans le jeu, l'onboarding, les premières heures, elles sont léchées, tout est calibré au mètre près, la distance entre le moment où vous vous accroupissez pour passer sous un truc, etc. Tout est prévu au poil de cul. Et là, en fait, tu sens que Nier Automata, c'est pas le cas. Tu vois, l'intro, tu peux perdre dans l'intro et t'es obligé de te la retaper, elle dure 20 minutes à chaque fois,
ouais,
quoi. Donc il y a vraiment tout un tas de choix de design du jeu qui ne sont pas du tout dans cette mouvance de rendre les jeux accessibles et
efficaces en fait, efficace, t'accrocher très très vite et que tu rentres tout de suite dedans. Et bon, déjà même en termes techniques, hein, on n'est pas du tout dans le calibrage, enfin voilà, on était en 2017, voilà, l'année d'après il y a God of War qui sort, c'est un des premiers épisodes de fin du game,
c'est pas un jeu à budget, hein,
mais oui, non, voilà, c'est ça. Mais encore une fois, il apparaît au milieu d'autres jeux comme ça, et je pense que justement, si tu te contentes un peu des AAA, des trucs comme ça, je pense qu'il y a plein de raisons qui font que le jeu peut te laisser de côté, quoi. Que tu dises, ouais, bon, en fait, je suis pas chaud. Enfin, moi, je trouve déjà qu'une entrée en shoot 'em up, c'est quand même particulier, tu vois, tu veux jouer un action RPG à troisième personne, tu dis, attends, je joue à Space Invader, là, c'est ça qu'on est en train de me faire faire, tu peux te dire, bon, c'est particulier, tu vois.
Avant que tu refasses une séquence comme celle-ci,
ça va être dans pas mal d'heures,
il y a un long moment entre le moment où, tu sais, un moment quand tu te fais rappeler, là, depuis le village de Pascal, en disant, il y a les Goliaths qui attaquent, et tu reviens enfin au tout début du jeu, tu remontes dans ton vaisseau, et là, enfin, tu rejoues avec ce gameplay-là, mais ça fait peut-être 7-8 heures.
Moi, je trouve ça super cool, parce que finalement, ça annonce plein de choses qui va se passer dans le jeu, et c'est une ouverture qui a vraiment du sens par rapport à tout ce que va être le jeu. Mais par contre, trouve ça de but en blanc assez déstabilisant en fait. Si tu sais pas trop à quelle sauce tu vas être mangé avec ce jeu, je pense que tu peux être un peu déstabilisé. Si t'as juste acheté la jaquette parce que tu te dis attends, nana, elle est pas mal, c'est peut-être possible, je ne sais pas. Tu vas te dire ah ouais, c'est ça, d'accord, ok, j'avais peut-être pas prévu quoi.
C'est ça, vraiment ce début de jeu et même le reste en fait ne va pas vraiment dans le sens du vent, ce qu'on constate depuis pas mal d'années où justement on va essayer de lisser les contrôles, on va essayer de lisser les expériences. C'est pour ça qu'on se retrouve avec autant de jeux en open world qui proposent les mêmes actions. Tu vois, c'est l'infiltration,
oui,
les hautes
fait,
herbes, l'escalade, le cheval, on peut l'appuyer, on peut le siffler à n'importe quel moment. Enfin, voilà, on retrouve comme ça des codes dans des jeux aujourd'hui qui permettent de faciliter notre entrée dans ces univers-là. Ce qui va changer, c'est l'histoire, la narration, etc. Là, Nier, c'est vraiment un jeu qui est assez abrupt. Tu vois, il y a beaucoup d'arêtes sur cette forme-là. C'est pas une jolie sphère, tu la tiens en main. Là, il y a plein d'arêtes, ça fait un peu mal. Mais par contre, si tu arrives à la garder dans tes mains et à commencer à regarder un petit peu ce qu'il y a en dessous de la structure, là, on va trouver quelque chose de beaucoup plus riche. Et c'est le moment où on va pouvoir commencer à vous dire des choses bien sur votre jeu. Vous inquiétez pas, parce que c'est vraiment ça en fait qui fait la force du jeu, c'est ce qui se passe en dessous.
C'est ça, pour la formule, je me souviens quand j'avais terminé Nier Automata, j'avais joué une trentaine d'heures et je disais, je souhaite vraiment à tout le monde de l'avoir fait, mais pas de le faire. Tu vois, il est chiant à faire, mais une fois que tu l'as fait, t'es vraiment satisfait. Quoi.
Ouais, je trouve que ta formule, elle est assez juste, parce que c'est ça, déjà, c'est un jeu qui est assez éprouvant. Il faut vouloir aller au bout, il faut se dire que, ok, je vais aller jusqu'à cette fin E, je vais me taper un peu tous ces trucs, parce qu'il y a des moments, en fait, où tu vas être obligé de les subir. On expliquera pourquoi, à notre sens, c'est important. Et puis, encore une fois, il y a toute cette densité scénaristique qui, voilà, ont mille raisons de pouvoir te paumer si à un moment, t'es pas forcément en phase avec, je sais pas, des robots qui se mettent ensemble et qui font naître une créature, deux jumelles qui ont les cheveux rouges, les culottes, les machins, bref, il y a plein de moments qui peuvent te perdre dans le. Mais pour revenir à cette idée, pour revenir au game design vraiment, vraiment du jeu, et finalement, quelle est la grammaire de Taro Yoko, comment il l'utilise, en fait, c'est ça, elle est pas calibrée pour faire du fun, elle est pas calibrée pour faire du AAA, mais par contre, c'est toutes ces idées de game design, que ce soit le hacking, le côté répétition, les différentes fins, en fait, ça, c'est tous des éléments qui ont beaucoup de sens dans les messages et les idées et les émotions qui veut nous suggérer et qui veut nous faire vivre en jeu. Il y a une idée qui chapeaute, pour nous, c'est un peu ça qui chapeaute vraiment tout le jeu, c'est l'existentialisme, et c'est qui est une philosophie occidentale. Alors il y a plusieurs courants, hein, comme dans beaucoup de philosophies. À la base, c'est quand même une philosophie chrétienne, croyante. C'était notamment Kierkegaard qui avait amené des réflexions là-dessus. Mais celle qui va vraiment beaucoup plus traverser le jeu, c'est celle de Sartre, donc l'existentialisme selon Sartre, qui dit la fameuse phrase qui est que l'existence précède l'essence. Et pour expliquer ce que ça veut dire très tout à fait bêtement, c'est qu'en fait, dans notre vie, on ne naît pas au monde défini, il n'y a rien qui nous définit ce qu'on fait, c'est en vivant, en se côtoyant soi-même et en côtoyant le monde qu'on va arriver à se définir, et donc c'est en existant qu'on va après pouvoir définir qui l'on est et donc notre essence, donc l'existence précède l'essence. Et ça, c'est vraiment, oui, c'est tout le thème du jeu, quoi. C'est tout ce qui va traverser les réflexions qui vont être amenées par les différents personnages et toutes les actions qu'on va mener.
Oui, et du coup, pour contextualiser, c'est pour s'opposer, du coup, à la religion, de dire qu'avant l'existence, il n'y a pas d'essence, puisque selon la religion chrétienne, hein, typiquement pour un Sartre des années 40, le sens de la religion, c'est de dire que Dieu a déterminé qu'il y a ci, il y a cela, tu vas vivre comme ci pour atteindre le paradis, il y a des dogmes, il y a des lois.
Oui, et puis il y a une morale en fait qui a été déjà prédessinée pour toi, et les choix que tu dois faire, logiquement, t'as pas vraiment de questions à te poser, t'as juste à ouvrir le bouquin et te dire ok, ça c'est pas bien, je fais pas, ça c'est bien, je fais.
Et Sartre, du coup, dit non, mais c'est en fait, c'est juste à toi de décider, il n'y a pas d'absolu, c'est à toi juste de te fixer ton propre sens de la vie, et voilà, que Dieu existe ou pas, on s'en fout, c'est pas lui qui va déterminer ta vie, c'est à toi de le faire. Et donc, Nier Automata commence vraiment sur un petit monologue de Toubi qui parle un peu de la vie, qui dit que voilà, à la fin, on meurt forcément, il y a un cycle éternel, mais quel est le dieu, tu vois, est-ce que c'est un châtiment, est-ce que c'est une punition, j'aimerais bien rencontrer ce dieu pour le tuer.
Et ça, ça, le fait de tuer Dieu, c'est un postulat qui est, pas envie de dire vieux comme le monde, parce que pendant pas mal de temps, c'était plutôt l'inverse qui se passait, mais qui commence quand même maintenant à avoir quelques siècles derrière lui, que ce soit dans la littérature, les films ou les jeux.
Même pas, parce que regarde, c'est quoi, Dieu est mort, Nietzsche, ouais, non, un siècle peut-être, mais c'est pas si vieux que ça.
C'est pas si si vieux que ça.
Non, c'est pas si vieux que ça de tuer.
C'est juste que depuis, on l'a fait plein de fois. En fait, ce qui est intéressant, c'est que dans la lecture qu'on peut faire de Nier Automata, ce que j'aime bien avec l'idée de la morale et du dogme religieux, c'est que ça peut être un peu ton manuel de vie. Tu vois, c'est un peu ta notice. Tu lis ton truc du genre, là, il faut faire quoi ? Ah, faut pas les tuer. Ok, donc ça, c'est bon. La voisine non plus. Enfin, tu vois, il y a plein d'histoires comme ça avec les dix commandements qui te disent. Voilà le manuel de la vie, c'est comme ça, et à la fin, en plus, c'est cool, il y a le paradis. Une fois qu'on a commencé à être dans une société globalement athée, où l'idée de Dieu a été remplacée par la science, par le doute, etc., etc., en fait, on n'a plus cette notion-là, et donc on n'a plus cette espèce de manuel, on a donc une espèce d'angoisse existentielle de, bon, bah, maintenant qu'on n'est plus en fait une créature à l'image d'un machin super sage, etc., qu'est-ce que c'est notre objectif de vie ? Et ce qui marche bien, en fait, dans le twist qui est apporté par Nier Automata, c'est qu'on va incarner des robots, qui sont donc des machines, qui disposent d'un programme, on leur a dit, votre fonction, c'est ça, toi, tu vas faire du café, toi, tu vas aspirer, toi tu vas laver le linge et toi tu vas tuer des robots. Voilà. Mais c'est globalement vraiment ça. C'est-à-dire qu'il faut vraiment se pencher sur le fait que ça soit des machines et donc elles ont été créées avec une fonction qui est beaucoup plus intégrée dans leur existence, dans leur essence même, tu vois, que nous en tant qu'être humain.
Elles ont une essence.
Elles ont une essence, c'est ça. Elles ont une machine, on leur a donné une fonction. Si on t'a fabriqué, Nines, c'est parce que tu es un scout, hein, la fameuse lettre, tu vas donc récupérer des infos. Elle, B, c'est battler, donc tu vas te battre, assassin, assault, machin, bidule. Donc vraiment, cette idée d'essence avec Nier Automata, ça permet vraiment de proposer un twist sur toutes ces angoisses existentielles et c'est incarné à travers l'intégralité du jeu.
Avec ces persos, en fait, le Nier Automata, il fait fi un peu de nous, les interférences qu'on pourrait avoir, parce qu'il y a toujours un débat qu'on peut avoir sur l'existence ou non de Dieu. Voilà, qui serait plus ou moins productif. Là, au
il y a
moins...
des gens qui se font la guerre hein, pour ça. Donc,
c'est pas mal. Pourrait discuter tout simplement.
Mais là, comme tu l'as dit, c'est indéniable. Ces robots, ils ont une essence et leur existence découle de ça. Sauf qu'on apprend pendant le jeu que l'humanité, les dieux, l'équivalent des dieux hein, pour les androïdes et les aliens, l'équivalent des dieux pour les machines, sont morts. En fait, on leur a coupé ça. Donc l'essence n'a aucune raison d'être. Et du coup, ces robots. Bah, il leur incombe, comme tu as dit, la responsabilité de créer leur existence, de créer le sens de leur vie. Et c'est en ce sens que bah, c'est bon, ça rejoint donc la philosophie existentialiste de Sartre.
Ouais, effectivement, parce que lui, ce qu'il dit, c'est que peu importe, c'est-à-dire que peu importe que si Dieu existe ou pas, on s'en fout. De toute façon, notre essence ne sera pas décidée par autre chose que par nous-mêmes au cours de notre existence. Et ça, qui est super intéressant avec Nier Automata, c'est que bah, les androïdes, on sait qu'ils ont été créés, mais il faut aussi s'en foutre. C'est-à-dire que eux, c'est ça qu'ils vont découvrir, c'est que bah, il va falloir s'en foutre en fait de ce que les humains ont décidé pour nous. Il va falloir qu'on trouve nous-mêmes un sens à notre existence. En tout cas, c'est vers cette idée que tout le jeu va nous emmener, parce que c'est pas le postulat de base de Nier Automata. Nier Automata va nous faire traverser et nous faire rencontrer plein de personnages qui sont justement dans ces réflexions, qui sont piégés dans cette angoisse de l'existence, parce que justement bah, ils n'ont plus leur dieu, soit ils l'ont tué, soit il les a abandonnés, soit il est mort, enfin voilà, les robots, ils n'ont plus leur dieu qui étaient les aliens, il n'est plus là, donc ils n'ont plus cette essence qui est prédéfinie, donc c'est eux qui essaient de retenter de la créer. Et bah, ils vont explorer en fait des choses que nous, on a, nos modèles de civilisation. Alors c'est assez amusant parce que déjà, il y a plein de philosophes qui sont présents dans le jeu. Taro Yoko les intègre, donne des noms à ces personnages. Alors, il y a Pascal, hein, les pensées de Pascal. Il y a aussi Jean-Paul Sartre qui est là. Simone, c'est Simone de Beauvoir, hein, qui était en couple libre d'ailleurs, avec Jean-Paul Sartre. Il y a Kierkegaard, qui est lui le personnage qui est le robot un peu chef du secte religieux, hein, qui vont faire une espèce de grand saut de la foi. Et c'était la philosophie existentialiste de Kierkegaard, hein, qui était de dire, bah, voilà, son existentialisme, lui, c'était un existentialisme religieux, c'est-à-dire, il faut croire à Dieu et c'est à vous de définir un peu votre relation avec Dieu. Quoi.
Il reconnaissait le fait que tu pouvais abandonner un petit peu de raison parce que voilà, tu ne peux pas tout prouver par A plus B dans les dogmes religieux, mais qu'il faut donc faire un saut de la foi, vraiment croire juste en Dieu et te jeter dedans. Et du coup, là, c'est une des utilisations les plus littérales, je pense, des références philosophiques où là, vraiment, il y a des robots qui sautent dans la lave en disant c'est bon, on va become as God.
Alors voilà. Que les autres, c'est un peu twisté hein, parfois sur leur propre tête. Hein,
oui, c'est des clins d'œil. Hein.
Oui, il y a des clins d'œil. Bah, déjà Jean-Paul, déjà Pascal. Alors, à un moment, il lit les pensées. À un moment, il lit Nietzsche aussi.
Oui, Nietzsche,
voilà. Et puis, je crois que même un des persos de la forêt, L'ancien roi, c'était pas Kant ou un truc comme ça?
C'est Emmanuel.
C'est comme Emmanuel. Kant.
Voilà, voilà, donc c'est ça. Voilà, il y a une référence aussi à Kant. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il les twist à chaque fois, il les subvertit, c'est-à-dire que c'est pas vraiment une incarnation de ces personnages, c'est parfois même une mécompréhension de la philosophie de ces personnages et qui va justement les mener un petit peu à mal, hein, parce que chacune de ces petites sociétés, elles vont toutes trouver un destin un peu funeste, hein, la monarchie dans la. Dans la forêt, ils sont coincés parce que voilà, le bébé robot, il ne grandira jamais parce que c'est un robot. Il y a quelque chose de très drôle d'ailleurs dans cette espèce de paradoxe-là. Il y a ceux qui font les espèces d'orgies de partout, là, tu sens qu'ils ont perdu un peu leur sens. T'as Pascal qui, lui, se dit je vais essayer d'inculquer les émotions à mes petits frères, là, à tous les petits robots, mais en fait, ça va causer leur perte parce qu'il va leur apprendre la peur et devant trop de peur, ils vont choisir de se suicider à un moment.
Pascal qui, pacifique et pacifiste même, va quand même combattre. Il va justement renier un petit peu, alors pas renier, mais aller contre justement ses axiomes, et il va se battre un moment contre les robots type Goliath pour justement protéger les gens à qui il a enseigné la peur, mais finalement ça les mènera au suicide parce qu'ils ont eu peur du coup de se faire tuer. Donc t'as cette tragédie à la fin où il demande qu'on lui supprime la mémoire ou qu'on le tue. Ouais. Et on peut sortir et ne pas décider. Voilà pour la petite anecdote.
Non, mais cette histoire à Pascal, je l'ai trouvé vraiment super
c'est
riche.
C'est un des personnages, je trouve, le plus touchant du jeu. En plus, cette musique là dans le village, moi je la trouve cette espèce de. Tu sais, il y a une naïveté, il y a un côté très enfantin qui ressort ce truc qui je trouve assez.
C'est
assez
ça, il y a une vraie candeur en fait avec ce personnage là où il se dit En ayant de la bienveillance, je vais réussir. Et le truc, c'est que Taruyoko, lui, quand il définit, comme on le dit, tous les personnages que vont croiser Tobi, Nines et tout, c'est vraiment, à la fin, ça va mal se passer. Il va y avoir toujours un twist qui fait que votre vision, en fait, n'est pas la bonne. Et tu vois, je pense que, par exemple, pour parler de la forêt sylvestre avec le côté empereur, etc., ça, moi, ça peut-être que c'est une espèce de vision un peu déformée de la monarchie impériale japonaise, tu vois. J'ai pas forcément les mêmes références que lui pour comprendre ça, mais je me dis peut-être que c'est ça, ce côté monarchie. Dieu, etc. Ouais, peut-être qu'il y a un lien là-dessus. Et le fait que Pascal se retrouve face au paradoxe du pacifisme en disant « Bah oui, mais si quelqu'un t'attaque, qu'est-ce que tu fais en étant pacifique ? Ça va 5 minutes, tu vois, de tendre l'autre joue quand t'as les deux joues qui sont rouges, qu'est-ce que tu fais ?» Donc, et à la fin, tu prends un gros robot géant et tu vas les défoncer à coups de laser. Bon. Et ça, c'était à vivre, c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable. Et effectivement, quand on le raconte comme ça, ça a l'air vraiment cool, mais... Il y a tout le côté, les quirks du jeu avec les petites quêtes, les machins. Mais l'histoire de Pascal, c'est vrai que moi, à la fin, quand je me suis retrouvé face au choix de savoir qu'est-ce que j'en fais de ce pauvre Pascal, moi, j'étais perdu parce que je suis là, merde, c'est horrible, quoi. Dans tous les cas, il a vécu un truc infernal. Moi, je vais devoir m'en souvenir, super. Et lui, peut-être qu'il aura la chance de l'oublier, mais il aura oublié tout ce qu'il avait fait de bien, quoi.
Après, il y a un truc que je voudrais un peu préciser, c'est qu'on a dit qu'il semble avoir un petit peu un jugement moral sur ses choix d'organisation de vie, tu vois, en disant que, par exemple, les religieux, ils attaquent les autres, ils se suicident. Tu disais la forêt sylvestre, c'est un petit peu absurde d'élever ce bébé robot. Mais je trouve que, dans une échelle personnelle existentialiste, il n'y a pas de jugement de valeur. C'est juste, en fait, si tu as trouvé le sens à ta vie, c'est bon, en fait. Tu as trouvé le sens à ta vie. Moi j'aime bien quand même, à un moment, tu as un dialogue, je crois que c'est pendant la run B, quand tu fais la run avec Nines, tu vois le royaume sylvestre, comment il a évolué, comment le roi est
l'histoire,
mort.
L'histoire, oui.
Et c'est, alors ils l'ont plus ou moins réincarné, ou c'est une interprétation de leur part, je sais plus exactement, mais dans le bébé Emmanuel. Et on voit, genre 100 ans plus tard, ils voient que le bébé, ils disent, n'a pas grandi d'un pouce. Et après, ils sont juste... ouais, mais il est tellement mignon, on va quand même le défendre jusqu'au bout. Et je trouve que, tu vois, ils se sont rendus compte que non, ça ne menait à rien, mais ils ont trouvé le sens de leur vie, tu vois. Et pour moi, il n'y a pas de jugement de valeur à ce niveau-là.
Non, pas là-dessus, effectivement. Oui, ils ont trouvé un sens dans l'absurde. Donc, effectivement, au bout d'un moment, c'est bon. C'est a priori, t'as gagné si t'en es là.
Et ça, c'est une idée qui traverse, en fait, Nier Automata. Parce que du coup, les situations qu'on va vivre sont en fait des situations qui, au bout d'un moment, ne font que révéler l'absurdité de notre existence. Tu vois, des robots qui essayent de se reproduire, ça marche pas vraiment, ils essayent d'imiter des gestes comme dans des films porno, parce qu'ils en ont peut-être vu ou ils en ont peut-être le souvenir, mais ça mène à rien, tu vois, ça rime à rien. Les robots qui vont essayer d'être pacifiques, qui à la fin sont obligés de se battre ou qui décident de se suicider, les autres qui sont créés juste pour se jeter dans une fournaise, enfin, voilà, il y a un côté vraiment absurde de l'existence, et au travers de tout ça, nous, nos personnages, en fait, ils vont essayer, à leur échelle, de trouver un sens, puisque du coup, on leur a supprimé. Au bout d'un moment, à la fin de la run B, on leur dit, non, mais en fait, votre mission n'a pas lieu d'être. C'est vous poursuivez une chimère. Il n'y aura pas d'humanité. La Lune, elle est là, mais elle n'est pas là pour les humains.
Il n'y a plus d'humains.
Il n'y a plus d'humains, de toute façon, c'est foutu. Et donc, il va falloir trouver un sens. Nines, il devient fou pendant quand même pas mal d'heures de jeu. Il est complètement taré. Parce que justement, cette perte d'un coup de sens, de béquille sur laquelle se raccrocher, ben, ça provoque cette angoisse et un gouffre, vous voyez, pour les personnages.
C'est ce que disait Sartre, que la plupart des gens, en fait, ont peur de leur propre liberté. C'est-à-dire que, voilà, en fait, mis face à ta responsabilité, que c'est à toi qu'incombe tous tes choix finalement et c'est à toi de décider, bah des gens sont perdus. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup de personnages comme ça dans le jeu qui vont éprouver un peu cette idée d'angoisse vis-à-vis du vertige de la liberté. Y a un robot qui est au-dessus d'un espèce de grand vide là quand il y a le cratère, et si tu lui parles, tu sens qu'il est perdu en fait, qu'il se dit mais je dois continuer à me battre, mais en fait je perds tous les gens que j'aime, mais je continue. Enfin, en fait, il y a cette espèce de vertige ou du paradoxe en fait dans lequel ils sont coincés, ces robots, et du coup ils choisissent de se suicider face à ce paradoxe et cette angoisse.
Et en plus, cette quête, la mise en scène elle est cool parce que t'en as trois en tout, mais en fait ils ne parlent pas. Et c'est quand tu incarnes Nines, il faut les hacker, et là t'entends leurs pensées en fait qui résonnent, et de tous justement ce dilemme, tu vois, ils arrivent pas vraiment à déterminer le sens de leur vie, et comme tu le dis à la fin, ils se suicident.
Mais c'est ça que je trouve super intéressant, c'est que finalement c'est pas le jeu qui te dit cette société elle marche pas, ce modèle si il marche pas, ce modèle machin, c'est qu'en fait c'est à chaque fois un modèle extrêmement simplifié de société, et ils le vivent tous, chacun à leur échelle, et en fait il y a que toi à travers le regard de Toubi qui va tous les côtoyer, où tu vas pouvoir en fait prendre l'ampleur de toute la complexité du truc et te dire ce modèle, mais en même temps si on le mélange avec ce modèle, et si on le mélange avec cette problématique, et si on le mélange avec cette idée de liberté et de peur et de machin, et en fait c'est ça le grand vertige du truc, c'est que dans toutes les perspectives que tu prennes, elles ont des paradoxes, elles ont des ambivalences, elles peuvent être angoissantes si tu prends la mesure de l'ampleur de la réflexion qu'il y a derrière. Et je trouve que c'est ça qui est fort dans le jeu, c'est de nous montrer toutes ces petites perspectives, tous ces petits points de constellation, et pour nous faire rendre compte en fait de tout le projet de réflexion qu'il y a derrière.
Et derrière tout ça, il y a un autre truc qui est quand même assez intéressant, c'est que en fait, ça permet de rapprocher, tu vois, de réduire les différences, parce que du coup, en voyant toutes les différentes approches monarchiques, religieuses, politiques, machin, guerrières, militaires, etc.
Tu vois qu'il y a des patterns.
Il y a des patterns, et surtout, il y a quelque chose qui les rapproche, parce que du coup, cette idée-là, c'est ce qui les... En fait, les androïdes et les robots, ils vivent la même chose, ils sont face au même dilemme, aux mêmes problématiques, aux mêmes vertiges, et donc, le fait qu'ils soient finalement si proches, est-ce qu'ils ont vraiment de raison de se battre ? Et ça, c'est vraiment un discours qui n'est pas forcément si mis en avant que ça dans le jeu, mais auquel on peut réfléchir à force d'y jouer, et qui va peut-être un peu s'incarner via la fin E, hein, puisqu'elle est quand même un peu là pour montrer un truc un peu d'espoir. Et j'ai trouvé que ça, c'était super malin, parce que c'est un bon discours de fond, tu vois, du jeu, qui te dit, on est tous pareils, tu vois, peu importe que tu sois un robot, un humain, une machine ou une boîte de conserve, tu as la même peur, et donc ça, c'est ça qui nous relie entre nous, tu vois, ça pourrait devenir une espèce de liant qui fait que, on va comprendre les robots, c'est pour ça qu'on va s'attacher à Pascal, même s'il ressemble à une machine à coudre, tu vois. Ça reste une machine à coudre, mais ressemble à ce que tu veux, quoi.
Et c'est le moment d'ailleurs de rappeler que l'inspiration de Yoko Taro pour le jeu, puisque à vraisemblablement, il l'a dit dans une interview, il a eu cette idée en voyant une pub de Coca-Cola qui avait fait une espèce de stunt marketing en fait au Pakistan et en Inde, qui sont deux pays belligérants entre eux. Et en fait, ils avaient mis Coca-Cola une borne côté Pakistan et une borne côté Inde, avec une espèce de d'écran qui filmait l'autre côté. Et en fait, les gens, alors les Indiens ou les Pakistanais se voyaient à travers cette vitre, et en fait la machine les invitait à créer des symboles ensemble, alors notamment le symbole là, Peace and Love, le cercle avec les petits traits à l'intérieur, et en fait s'ils faisaient le symbole, ils gagnaient un petit coca, qui sortait, évidemment. Mais du coup, il s'était rendu compte en voyant ça, Yoko Taro, il s'est dit on peut arriver à lier les gens en fait si on leur fait oublier ces barrières, en fait les barrières qu'on leur a dites, c'est-à-dire toi t'es Pakistanais, toi t'es Indien, donc vous aimez pas, et en fait, non, on est quasiment pareil, on a les mêmes vies, on est dans le même supermarché, on a probablement en plus une physionomie qui se ressemble, parce que c'est des ethnies qui ont une histoire commune. Donc bref, il y a plein de choses qui les rapprochent, et voilà, c'était... quand c'est un stunt, hein, c'est vraiment une allégorie, une pirouette, mais ça marche. Et du coup, bah, c'est vrai que moi j'avais trouvé ça assez drôle que ça inspire le créateur, parce que c'est aussi un peu ce qu'il fait justement avec ce truc des robots, des androïdes. Tu dis, en fait, vous êtes pareil, c'est juste qu'il y en a qui nous ressemblent beaucoup plus à nous les humains en physiquement. Peut-être que les robots sont peut-être un peu moins intelligents, peut-être qu'ils ont leur IA est réglée un peu moins, mais en fait, voilà, ils ont les mêmes émotions, etc.
Mais scénaristiquement, il y a un truc aussi important appris par une ânesse, c'est que les machines et les androïdes sont formés, il y a un noyau en commun, tu vois.
Ils ont des trucs en commun, c'est un autre truc qui
le fait vaciller encore un petit peu plus, parce que lui était vraiment en mode, voilà, les machines sont débiles, les androïdes et tout. Mais sinon, pour en revenir un petit peu sur toutes les organisations politiques ou autour du sens de la vie d'une façon plus générale, il y a un autre... une autre notion sous-jacente dans le jeu qui est assez importante, c'est la notion de cycle, puisqu'on a cette guerre qui nous paraît absurde au début, des androïdes contre les machines qui durent depuis des milliers d'années, d'autant plus que les humains et les aliens sont morts, mais on voit que même dans ces sociétés qui se sont restructurées, il y a toujours un petit peu un cycle qui il n'y a pas d'évolution en fait dans ces sociétés-là. Voilà, le royaume sylvestre, bon, comme on dit, ça fait des centaines d'années qu'ils attendent que le roi grossisse, que le roi grandissent, et puis finalement, voilà, ils décident de faire pareil. La fête foraine, ils sont dans une fête perpétuelle qui ne termine jamais. Et il y a la scène...
Ils sont dans un jeu service géant.
C'est ça. Il y a aussi Tooby, ça on l'avait pas mentionné, mais Tooby qui en fait est programmé pour tuer Nines à chaque fois qu'il en apprend un petit peu trop, justement sur les humains.
Parce que lui, il est programmé pour avoir de l'empathie et apprendre, et du coup hacker, et forcément, ils ont compris qu'au bout d'un moment, il arrivait toujours au même stade de dire « Attends, il y a un souci », et du coup, voilà, il y a un robot qui est fait pour le...
Du coup, Tooby tue toujours Nines, donc ça, il y a toujours ce cycle encore. Et il y a cette notion un petit peu du coup que même une fois que les robots ont réalisé que les humains et les aliens étaient morts, ont réalisé que c'était absurde, ont décidé de créer de nouvelles formes de sociétés, ces sociétés sont pas vraiment moins absurdes, tu vois. Il y a un petit peu cette notion que l'absurde fait partie de la vie, tu vois. C'est un peu une constante de la vie, qu'il n'y aura pas vraiment... Il n'y a pas une réponse en fait à tout, c'est vraiment à partir du moment où tu donnes un sens à ta vie, c'est ça le sens, voilà, et ce sera quand même absurde, mais à partir du moment où tu acceptes cet absurde, c'est bon, ta vie a un sens. Et il y a aussi cette notion dans le jeu un petit peu de révolte du coup contre l'absurde, puisqu'on parlait justement des robots qui font leur orgie là dans le désert, avec les petites lignes en plus, genre je sais plus, je t'aime, mon amour et tout, c'est assez déstabilisant de voir ça. Et donc je reviens à ce que disait, donc il y a Nicolas Turceff qui avait fait une interprétation intéressante, parce que comme on l'a dit, donc il y a cette orgie, puis ils finissent par s'agglutiner, à donner naissance à Adam. Et donc là, dans l'univers du jeu,
ça n'a pas trop de sens qu'il y ait un liquide qui vient de robots. Enfin, tu te dis, mais en fait, c'est...
Voilà. Et Turceff, il a une interprétation cool qui est que les robots, en fait, avant de s'agglutiner, ils étaient en train de crier « This cannot continue, this cannot continue », donc ça ne peut pas continuer. Et en fait, se sont révoltés contre cet absurde, le fait de coucher ensemble alors que c'est des boîtes de conserve. Et en fait, cette révolte, vraiment, ce côté, ce sentiment, a donné naissance à Adam, a créé quelque chose. Et ça, c'est là qu'on en revient, du coup, à la fin E, où au tout début, elle est aussi très cyclique, parce qu'on doit mourir face au crédit plusieurs fois, au moins trois fois, on meurt, donc c'est encore cette notion de cycle, de mort, on vit un petit peu ce qu'on peut vivre, Tooby, Nines et tout, contre les machines. Mais Taro, il nous propose du coup cette... il nous tend la main pour nous proposer en fait une révolte du coup contre cet absurde. On tue les crédits, on tue le vrai dieu en fait des jeux, c'est pas les humains, c'est pas les aliens, les dieux, c'est Square Enix,
c'est le dieu méta.
C'est ça, c'est Taro Yoko. Et il nous offre cette opportunité, cette révolte en fait collective de tuer vraiment Dieu et de briser en fait ce cycle et cet absurde de la vie.
Et de s'associer du coup à d'autres gens qui partagent ce lien avec l'absurdité. Et ça du coup, ça fait vraiment un message qui quand même vachement humaniste au final, je trouve, derrière, parce que l'humanité, en se joignant, en s'aidant, tu vois, en travaillant la main dans la main, on arrive à lutter, non pas à rajouter du sens, puisque finalement, c'est un peu ça, en fait, ce qui est dit, je pense que tu voulais dire, Max, c'est que en recréant des sociétés, elles ne font que reproduire quelque chose qui aussi reste absurde. Mais c'est pas grave, parce que du coup, l'absurde, ça fait partie de notre existence. C'est un truc sur lequel on doit accepter l'idée que on saura jamais vraiment la bonne réponse, on saura jamais si Dieu il existe ou pas, etc., etc. Toutes ces questions métaphysiques, il faut qu'on accepte qu'on ne va pas pouvoir trouver une réponse de notre vivant, et donc on doit trouver un sens à tout ça. Et à la fin du jeu, il te dit, par contre, tu peux peut-être trouver du sens en te liant aux autres êtres humains qui partagent ces mêmes angoisses, cette même réaction face à l'absurde. Peut-être qu'en vous battant tous ensemble, même si ça ne sert à rien, et là on reprend les paroles de la chanson du coup Weight of the World, le poids du monde sur les épaules de la chanteuse, même si ça n'a pas de sens, c'est pas grave, on va continuer de crier, on va continuer de se battre, on va essayer de travailler ensemble, et peut-être que ça nous amènera à quelque chose. Mais si c'est pas le cas, c'est pas grave, parce que le process de faire ça, de se révolter, en soi, nous donne un sens et justifie notre existence.
Là, il y a une grosse intention d'auteur, en fait, de Tarioko, parce que en juste parlant d'existentialisme, tu peux sombrer dans une forme un peu de relativisme en disant que tout est légitime. Ce qui est vrai, tu vois, de dire qu'en tout, une vie ne vaut pas, un sens de la vie ne vaut pas mieux qu'un autre à échelle individuelle. Si tu trouves le sens de ta vie, c'est bon, banco, c'est bon. Ok. Sauf que on pourrait dire, moi je disais, on aurait pu voir un peuple dans Nier Automata qui donc fait la guerre, on va dire, aux androïdes, apprend que les aliens et les humains sont morts, mais a pris du plaisir à faire la guerre et décide de continuer cette guerre par plaisir. Ça, ce serait une démarche existentialiste, tu vois, de gens qui se disent bah, finalement, j'aime faire la guerre, j'aime faire ça. Tarioko, il propose pas ces gens-là, et à la fin, vraiment, il te propose l'altruisme, en fait, comme valeur. Donc il y a vraiment une vraie intention où il te dit que, certes, un sens de la vie ne vaut pas mieux qu'un autre, mais l'altruisme, c'est cool quand même, tu vois, il propose quand même une direction.
Il essaye, en fait, c'est ça, d'insuffler une idée qui, lui, le traverse depuis toujours en tant que créateur de jeux vidéo, et ça, c'est un truc qu'il disait dans un tas d'interviews, où il voulait faire en sorte que les jeux vidéo aient un impact sur la vie réelle. Il veut que lui, en tant que créateur, en tant qu'artiste, son travail ait un impact sur les gens, et que à travers son jeu, il puisse dire aux gens, bah voilà, vous êtes chez vous en train de jouer à votre console, mais vous n'êtes pas seul, les autres gens, ils sont comme vous, et peut-être que vous pourriez travailler ensemble, et peut-être que vous allez pouvoir au travers de ces écrans, au travers de ces messages et de cette fameuse fin E, traverser l'écran, tu vois, de manière un peu symbolique, tendre la main, accrocher la main de quelqu'un d'autre qui est comme vous, à l'autre bout du monde, et qui est face aux mêmes choses. Et c'est vrai que ça, c'est un message qui est d'une naïveté assez confondante, mais qui est également très fort.
Voilà, mais c'est fondamental, enfin, c'est des choses qui sont simples, et en général, c'est des choses qui sont les plus vraies. Et du coup, pour reboucler aussi avec ce qu'on disait sur le côté game design pas forcément efficace, qu'on va subir, je pense aussi que cette fin, elle serait pas aussi forte si on n'avait pas justement subi tout ce qu'on subit dans le jeu. C'est-à-dire que si on n'éprouvait pas ce cycle de la violence, ce cycle un peu absurde de se dire « Tain, je recommence encore un truc après la fin B, et puis en fait, ah non, c'est pas fini, il y a encore la C, il y a la D, et puis je revis encore des trucs. » Et surtout que dans tout le jeu, tu vis que des traumatismes, je veux dire, c'est que des trucs mauvais qui se passent. Tu vois toutes les sociétés qui ont toutes des destins en général assez tristes, et puis à la fin, tu arrives quand même à un point culminant où tu te fais battre 9S et A2 pour... juste parce qu'ils sont devenus Nines est devenu fou, tu vois, ils se battent pas pour une raison qui est légitime, c'est totalement absurde. Donc forcément, à ce moment-là du jeu, t'es en souffrance vis-à-vis des personnages, mais aussi vraiment vis-à-vis de ton expérience de jeu, parce que tu l'as subi, ça a recommencé, t'es dans un truc répétitif, et enfin t'arrives à un état émotionnel où t'es prêt à te révolter, en fait. T'as envie de te révolter pour le jeu. Et c'est ça que je trouve qui est peut-être le plus fort dans tout ce qu'il a réussi à faire, c'est-à-dire qu'il se dit, bah moi je voulais vous emmener là. Et du coup, j'ai construit tout un jeu, je vous ai fait vivre 25 heures pour vous donner, vous piéger vous aussi dans cette espèce de cycle, vous montrer toute son absurdité, quitte à vous perdre en tant que joueur, en dire, bah voilà, c'est trop absurde ce jeu, j'ai pas envie d'y jouer parce que ça me saoule que ça recommence. Mais en fait, quand t'arrives à la fin, t'es exactement, je trouve, t'es aligné, en fait, avec ce que lui, il a envie de te dire, c'est-à-dire, bah, révolte-toi contre ce jeu, révolte-toi contre le cycle de la violence que je t'ai imposé et tout. Et ça, je trouve ça, c'est quand même assez fabuleux comme mise en place, tu vois, le payoff, il est fou derrière.
Et c'est pas juste révolte-toi, c'est révoltez-vous, tu vois, c'est vraiment ensemble. La notion du collectif, elle est importante parce que tu ne peux pas battre les crédits à toi tout seul.
C'est vrai.
Une vraie empathie qui est créée.
On ne peut pas le faire.
Il t'a mis à genoux et en fait, il t'a dit, t'as besoin des autres en fait pour te révolter. Et il y a un vrai moment d'empathie, tu vois, qui est créé quand justement tu te prends un projectile et que tu vois que quelqu'un est mort. Bah, tu vois, c'était important pour moi de lire le pseudo, tu vois, de la personne qui est morte. Donc c'est un moment qui est assez important, ouais.
Et pour le côté un peu cerise sur le gâteau, pour montrer encore plus le côté apothéose, que ça on peut pas savoir pendant qu'on est en train de faire la fin E, mais qu'on découvre assez rapidement quand on va lire des choses sur internet, en fait dans la chanson on a en fait un mélange dans la chanson Weight of the World des différentes langues, puisque du coup il y a une version en anglais, il y a une version en japonais, il y a une version en français, je mets des guillemets, mais c'est une espèce de yaourt qui était déjà présent dans Nier. Je pourrais y revenir un petit peu, il y a beaucoup d'échos entre les musiques, et donc ces chants se mélangent au niveau des langues, et surtout il y a un chœur qui commence à apparaître avec les fameux nanana.
Quand tu as accepté l'aide des joueurs.
Voilà, quand tu acceptes l'aide des joueurs, tu les entends qui chantent en fait. Et en gros, ce chœur, et c'est là où c'est quand même assez malin, c'est que ce ne sont pas des gens random, c'est les équipes de Square Enix, les équipes de Platinum, Yoko Taro lui-même, etc. Donc les gens que tu es en train de tuer, qui sont en train de chanter et qui te soutiennent et qui t'encouragent en fait à participer à tout ça. Et ça, évidemment, quand tu réécoutes la chanson derrière, ça te fait un petit truc à chaque fois.
Il y a une charge supplémentaire derrière, émotionnelle.
Et je trouve ça fou parce parce que tu te dis, bah, ça veut dire que ça a été effectivement réfléchi depuis le début. Tu vois, c'est vraiment, ouais, comme tu le dis, ils ont voulu nous amener à ce stade émotionnel pour qu'on puisse comprendre la fin de Nier et la vivre avec eux, finalement. Parce que du coup, on la vit avec eux, vu qu'ils sont en train de chanter avec nous. Et donc, on en arrive à peu près à partager un truc comme ça avec d'autres gens qui jouent au jeu, les gens qui ont fabriqué le jeu. Enfin, tu vois, il y a une espèce de grosse communion à la toute fin et qui est effectivement, en termes. Tu sais, c'est un peu overwhelming comme on dit en anglais, en termes émotionnels, t'es complètement submergé d'un tas de trucs, et à vivre, c'est effectivement un très grand moment de jeu vidéo.
Puis en plus, il y a cette histoire quand même de sacrifier sa sauvegarde. On sait que pour les joueurs, alors ça, c'était, on peut le dire, hein, c'était déjà dans Nier. Je pense pas qu'on peut se permettre de le dire que c'était déjà dans Nier, mais c'est vrai qu'encore une fois, il y a en plus à la fin de ce truc là, bah voilà, si vous voulez aussi vous en faire partie, il faut sacrifier ta sauvegarde. Donc tu te dis, tous ces gens là qui m'ont aidé, bah c'est des gens qui ont fait ce choix là en fait. C'est aussi des gens qui ont fait ce choix là de se révolter, de dire ok, je m'en fous, je vais sacrifier ma sauvegarde parce que je veux aussi qu'il y ait d'autres gens qui vivent ce moment en fait, ce petit moment où on a trouvé du sens, on a trouvé un truc au milieu de l'absurde quoi. Et ça, c'est vrai que bon bah il y a, moi alors je peux le dire maintenant, moi je l'ai pas vécu ce moment parce que bah j'étais pas en ligne. Moi le jeu m'a dit voulez-vous vous mettre en ligne, je fais non tais-toi, moi je joue pas en ligne aux jeux vidéo solo, qu'est-ce que c'est que ces conneries. Et du coup je l'ai pas vécu, mais en fait après tout de suite bah j'ai vu, j'ai dit à Max ouais, j'arrive pas à mettre les crédits, pourquoi. Il m'a dit mais enfin tu n'es pas aidé par les autres, ou je sais plus comment ça s'est passé, mais bref. Et après j'ai vu, et en fait je trouve que, enfin, il y a une, enfin, c'est assez brillant en fait, en termes d'utilisation des codes du jeu vidéo, de ce qu'on t'a fait faire jusqu'avant, enfin une espèce de concordance de plein de choses qui font que bah, c'est un moment, je pense, important, mais dans le jeu vidéo, genre de l'histoire du jeu vidéo, tu vois, cette fin de Nier Automata, et je pense que c'est pour ça qu'il y a autant de gens qui ont ce jeu qui est cher à leur cœur et qui nous le demandent, c'est parce que ce moment-là, il est important, en fait, quand tu le vis, parce qu'il y a tellement de choses qui viennent se conglomérer autour de cette idée que, voilà, c'est...
C'est ça, et surtout, c'est un moment qu'on a tous vécu, tu vois, c'est un moment qu'on partage. Ça, c'est quelque chose de très fort, parce qu'il va y avoir des moments, tu vois, il va y avoir, je sais pas, des grandes œuvres, des Seigneurs des Anneaux, des Star Wars, des trucs qu'on va avoir en commun dans notre culture, etc. Mais là, c'est un moment d'émotion chargé avec beaucoup de sens, où on décide de effectivement sacrifier sa sauvegarde, de se sacrifier pour que les autres puissent à leur tour le faire. Et donc, c'est quelque chose qu'on a partagé. Et ça, c'est vraiment un truc qu'on reconnaît quand on discute avec des gens qui ont joué à Nier Automata et qui sont allés du coup jusqu'à la fin, eux, où tu te rends compte qu'on partage ce truc-là. Et donc, moi, c'est ça que je trouve effectivement brillant, comme tu dis, c'est qu'à travers son jeu, il a réussi à créer les conditions pour nous rapprocher, peu importe notre langue, peu importe d'où on vient, notre pays, notre religion, machin. Grâce à des mécaniques de jeux vidéo, il a pu nous faire vivre un moment unique qui ne sera assez difficile à reproduire, oui, je dans pense, un dans autre, un autre jeu vidéo, ouais, ouais, dans un autre contexte, en tout cas.
Déjà, oui, dans un autre jeu vidéo, et puis en plus, dans un autre médium, bah, ce serait pas possible. Il n'y aurait pas cette charge de, bah, déjà du multi, du fait qu'on soit connecté, du challenge, du fait qu'on ne peut pas réussir tant qu'on n'a pas dit
«
oui, j'accepte l'aide des autres », de dire ah, « je vais sacrifier ma sauvegarde », parce que la sauvegarde, c'est un vieux code, c'est un truc qu'on a toujours eu peur de perdre, parce que t'as supprimé ma sauvegarde Pokémon, t'es ouf. Enfin, voilà, c'est pas possible. Donc, voilà, il y a... Oui, c'est quelque chose qui, effectivement, qui est productible, et c'est pas pour rien, je pense, qu'il y a autant de gens qui se disent bah voilà, c'est on peut faire ça avec du jeu vidéo, et nulle part ailleurs qu'on pourrait le faire, quoi.
Et un truc cool, c'est que on peut le revivre, ce moment-là, puisqu'il y a la musique qui reste, en fait. Et moi, ça, c'est ça, j'aime beaucoup avec cette OST de Nier, c'est que à chaque fois que j'ai envie de revivre ça, je me remets le morceau, je le réécoute, et je suis de nouveau avec ces gens en train de détruire des trucs, etc. Et au niveau de la musique, ce que je trouve assez intéressant, je voulais un petit peu en parler, parce que c'est quelque chose, moi, qui m'a vraiment surpris quand j'ai joué à Nier Automata, c'est à quel point c'est à la fois une espèce de miroir du tout premier Nier, et en même temps, c'est un jeu qui est très différent, parce qu'il n'a pas du tout les mêmes intentions. Mais au niveau de la musique, ces chansons comme Weight of the World, etc., sont des nouveaux morceaux, mais la plupart des autres morceaux, en fait, sont simplement des reprises de ce qu'il y avait dans le premier Nier, et il y a énormément de clins d'œil. Donc vraiment, si vous nous écoutez là et que vous n'avez pas joué au premier Nier pour x ou y raison, quand le remake sort, je vous invite à le faire, parce que je serais vraiment curieux, tu vois, de savoir ce que les gens pensent a posteriori, de découvrir un jeu qui a autant inspiré Nier Automata, parce que vous allez recroiser Emile, vous allez recroiser Devola et Popola, qui auront un rôle beaucoup plus important. Vous allez réécouter la plupart des morceaux de musique que vous avez entendus dans Nier Automata dans un contexte très différent, et vous allez vivre encore une histoire assez, finalement, portée sur le côté existentialisme, toujours, mais sans robots, sans trucs comme ça, c'est un peu plus abstrait. Mais voilà, moi j'avais bien aimé, en fait, cette idée de retrouver comme ça autant de petits éléments du jeu que je connaissais dans Nier Automata, et c'est pour ça qu'arrivé à la fin, je me suis dit, ok, on va supprimer ma sauvegarde, parce que je l'ai déjà fait, donc je sais comment ça se passe, votre truc.
La musique est une des très rares BO que moi j'ai gardé avec moi, tu vois, que j'ai... acheté que je me suis procuré parce que moi, je suis pas très musique de jeux vidéo en général, tu vois, enfin j'aime bien hein, mais une fois que j'ai terminé le jeu je vais rarement les réécouter. Non, là vraiment la BO de Nier Automata, c'est vrai que c'est un truc que j'ai adoré, que j'ai vraiment gardé avec moi.
Et voilà, je pense qu'on a, ça y est, on a enfin fait cet épisode sur Nier Automata, et je pense que pressent presque un peu de frustration au sein de chacun de nous, tellement il y a de choses qu'on pourrait dire en fait sur le jeu. Il faut vous le dire, hein, je crois que c'est la première fois que le conducteur est aussi chargé. On n'a pas pu dire tout ce qu'on avait envie de dire, parce que je pense que en fait il y a tellement de choses. C'est un jeu encore une fois qui est très dense et qui peut faire nourrir des réflexions qui sont elles aussi très denses. Si on partait voilà, si on pouvait creuser un peu plus dans l'absurde, dans l'existentialisme, je pense qu'on pourrait aller encore plus loin. Mais bon, voilà, on peut pas non plus.
Fouiller un peu les quêtes annexes, parce qu'il y a plein de personnages qui évoquent des cycles et des histoires qui sont vraiment très touchantes et qui mériteraient, tu vois, de limite de développer ça dans des nouvelles ou dans des romans.
Oui, je pense à ce personnage là, le mécanicien là, qui reste plus que sa jambe d'origine et qui a changé toutes ses parties depuis. Bon bah voilà, ça aussi ça embraye sur d'autres réflexions. C'est qu'est-ce qui définit qui tu es, qu'est-ce qui fait ce que tu es. Ça aussi c'est des questionnements que le jeu va apporter, et qui encore une fois, il y a une espèce de grande croisée des chemins de plein de réflexions philosophiques empruntées à la philosophie occidentale, mais aussi je pense à plein de trucs japonais que j'ai pas forcément pu décoder, parce que j'ai pas autant de clés que celles que je peux avoir, que les quelques que j'ai dans la philosophie occidentale. Mais voilà, c'est un jeu qui est extrêmement riche, mais peut-être, et même si j'ai pas vécu ce moment final, tu vois, ce grand apothéose, moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup, parce qu'encore une fois, c'est un jeu qui est extrêmement humain, parce qu'il porte toutes les angoisses, les réflexions, et pas d'une personne, mais il y a aussi plein d'autres gens hein, qui ont mis de leur personne dans la création de ce jeu. Mais voilà, j'ai l'impression que, tu sais, quand tu joues à ce jeu, tu peux un peu mieux comprendre qui c'est la personne qui l'a créé, et je pense que c'est quelque chose que j'aime bien dans le jeu vidéo, de me dire que c'est un médium, que c'est un échange, que c'est une espèce de discussion, et de pouvoir percevoir l'humanité, les faiblesses, les angoisses, les réflexions, les paradoxes aussi, parce que finalement c'est tous, on est tous comme ça, et quelqu'un qui arrive à les traduire comme ça dans son game design, dans son jeu, dans ses thématiques, voilà, bon, il y a des meufs en petites culottes et en jupe, et voilà, tu peux appuyer pour faire exploser, mais ça c'est le folklore, tu vois.
C'est aussi son univers visuel, c'est tu ça. Vois, c'est vraiment son style à lui. Mais par contre, effectivement, je suis d'accord avec toi sur un truc, c'est que le jeu vidéo pour moi, et je le vis comme ça depuis pas mal d'années maintenant, c'est ça, c'est un discours entre deux personnes avec au milieu une machine. C'est-à-dire qu'il y a la personne qui crée, la personne qui joue, entre les deux il y a cette machine, et ça nous permet en fait de discuter entre nous. Et on va pouvoir refaire des échanges via des inputs, via des commandes, via des histoires, via tout ce que permet de faire le jeu vidéo. Et en fait, avec Nier Automata, il y a non seulement ce dialogue qui se fait entre l'équipe du jeu et toi, mais également toi et tous les autres gens qui jouent au jeu. Et ça, c'est vraiment quelque chose de extrêmement intéressant, et je pense que d'ici quelques années, à force qu'on commence tous, tu vois, collectivement, à enrichir notre manière de réfléchir et de parler du jeu vidéo, on va se rendre compte que Nier Automata, c'est effectivement un jeu qui a créé quelque chose qui touche du doigt vraiment l'essence de ce qu'est justement un jeu vidéo, parce qu'on a toujours du mal à le définir en tant que médium, c'est toujours un petit peu compliqué, et je trouve que Nier Automata, il y a des intuitions, il y a des fulgurances dans ce qu'il nous fait vivre, qui font que ça va rester, c'est un jeu important du jeu vidéo, tu vois, je le dis vraiment, je ne tremble absolument pas en disant ça, et je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire vivre aux gens qui font des jeux et qui feront des jeux plus tard, pour qu'ils comprennent, qu'ils aient cette intuition de voilà ce que vous pouvez faire avec ce médium là. Oui, il y a des gens qui jouent à la même machine, qui sont devant un écran, ils ont une manette dans les mains, nous on peut parler avec eux, ils peuvent parler entre eux, on peut les faire communiquer, et il se passe des trucs jolis parce qu'on les fait réfléchir sur leurs conditions d'être humain, et on se rapproche ensemble avec tout ça. Et tous ces trucs là, tu dis, c'est complètement abstrait, parce que pendant des années le jeu vidéo c'était j'appuie sur des boutons, ça fait exploser, et c'était des boulettes qu'il fallait éviter, et finalement derrière tout ça, il y a un sens beaucoup plus fort, beaucoup plus universel qu'on peut deviner, et que des gens comme Yoko Taro, ça y est, je commence à mélanger les prénoms et les voyelles. Yoko Taro arrive à faire et à nous faire vivre, et ça vraiment c'est quelque chose de très très fort.
Et Nier Automata du coup va aussi permettre à Nier d'être plus connu grâce au remaster, et Nier aussi lui exploite donc j'en dis pas trop, mais là parce que moi je l'ai pas fait, mais j'ai pu lire un peu dans le bouquin, j'ai regardé des vidéos aussi sur internet. Nier aussi exploite plein de codes du jeu vidéo pour raconter des choses assez spécifiques, c'est aussi un objet intéressant, et on va pouvoir y jouer bientôt, en tout cas moi je serais assez content.
Moi aussi
de
je serais chaud
remaster,
pour faire le remake,
et on fera un épisode dessus.
On verra.
C'est possible, moi j'adorerais vraiment, voilà, je tiens à le dire, et je tiens à dire également que moi ça me fait très plaisir qu'on fasse cet épisode, parce parce que alors, c'était un peu l'espèce de blague, c'est la queue du Mickey dans le manège qu'on tendait aux gens depuis très longtemps. Mais il faut savoir que nous, alors je m'exprime pour vous deux, peut-être que c'est pas ce que vous ressentez, mais on avait un peu peur, on était un peu stressés à l'idée de faire un épisode sur un jeu comme ça, parce que justement c'est quelque chose d'assez complexe à aborder. Et ce que je trouve cool, c'est que après 40 épisodes, on a acquis collectivement tous les trois une espèce d'expérience, une espèce de discours qu'on développe maintenant d'épisode en épisode, qui fait que quand on s'est retrouvé finalement face au vrai défi de bon bah il faut le remplir ce conducteur, on a écrit 10 pages, on a écrit des tonnes de trucs, on a réussi assez rapidement à deviner la structure globale qu'on voulait donner à cet épisode, et en fait grâce à toutes ces émissions, je trouve qu'on a réussi à le faire, ce foutu épisode, ce putain d'épisode sur Nier Automata. Non mais, je trouve ça rigolo parce que si vous nous l'aviez demandé à l'époque de Céleste, je pense qu'on aurait flippé beaucoup plus parce qu'on n'était pas encore prêt. Et là, du coup, voilà, on a, après tous ces épisodes, il y a cette idée qu'on a progressé et on est capable aujourd'hui de comprendre la portée d'un jeu comme ça et d'essayer de vous le retranscrire. On a sûrement oublié des tonnes de choses. Comme le disait Hugo, c'est un jeu qui est tellement dense, on va passer à côté de trucs. Mais voilà, on a réussi à transmettre 2-3 idées qui nous tenait à cœur, et là-dessus, je pense qu'on peut être content.
On rappelle quand même que Nier Automata, c'est un des jeux qui a motivé la création quand même de Fin du Game, tu vois. On se disait, bah ouais, quand les jeux sortent, c'est compliqué de vraiment trouver des infos complètes sur le jeu, des angles analytiques. Typiquement, Nier Automata, voilà, moi, quand je l'ai fini, j'allais un peu sur Internet, j'allais chercher des trucs et tout, parce que c'était pas évident. Et Nier Automata, on le disait hein, très tôt, quand on avait lancé le Patreon et tout, on disait, bah ça fait partie des jeux aussi. Quand on arrivera à un certain stade aussi, quand on pourra se dégager suffisamment de temps et en sous-marin de l'expérience aussi, on pourra aborder des jeux comme Nier Automata, tu vois. Maintenant c'est chose faite, le cycle est terminé.
Maintenant on peut passer à des jeux débiles.
notre vie n'a plus de sens maintenant que Nier Automata est fait, et voilà, c'est la fin dedans.
Mais vous pouvez quand même nous aider à trouver du sens dans notre vie, vous pouvez nous aider sur Patreon notamment.
Ah voilà, merci.
Moi je sais comment définir mon existence.
C'est le Square Enix.
J'ai pas besoin de Sartre et compagnie. Moi, j'ai Caris et Booba et ils m'ont appris des choses bien plus.
C'est PNL, c'est que du bif.
Et que du bif, exactement. Que la mif, que du bif. Non, voilà. Donc, merci de nous avoir écoutés pour cet épisode. On rappelle qu'on est reparti pour un rythme d'un épisode, de deux épisodes par mois. Logiquement, un toutes les deux semaines, à part s'il y a une troisième semaine qui se cale ici dans le mois, mais c'est pas pour tout de suite. Et puis voilà, on remercie encore une fois Sœur d'édition. On vous recommande chaudement, hein, vraiment, le livre de Nicolas qui est vraiment chouette. On l'a fait d'ailleurs gagner hein, sur le Discord. Mm-hmm. Si vous n'étiez pas présent, vous avez loupé ma foi ça.
Il y a aussi,
il y a des quêtes annexes hein, que vous pouvez faire avec Fin du Game. Vous pouvez nous rejoindre sur notre club sur le Discord. Vous découvrirez plein de choses sur l'or de l'émission. et puis voilà, on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode.
Salut.
Ciao.